Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national. À Paris sur 95,6, à Caen sur 106, à Chartres sur 104,5, à Cherbourg sur 87,8, au Havre sur 101,1, au Mans sur 98,8, pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS, et pour le monde entier sur notre site internet radiocourtoisie.com. Vous écoutez le libre journal de Serge Lebekech avec l'assistance de Victoria, diffusé en direct mercredi 24 janvier 2007 de 18 à 21h, en différé jeudi 25 dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce libre journal est réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85, par télécopieur au 01 46 51 21 82, par courrier électronique à contact@radiocourtoisie.com.
En train de traîner des masques. Amis de la résistance, bonsoir. J'étais en train de proférer des menaces de représailles extrêmement violentes contre Victoria, qui me reprochait de faire du bruit avec mes papiers.
Bat ta femme tous les jours.
Comment allez-vous tous? Alors,
son
autour de cette
table. Dit.
Je peux parler ou...
Attends, écoutez, quand même, vous m'attaquez.
Laissez-le parler.
Quand même, je cause.
Incroyable.
Allez.
Voilà, non mais c'est typiquement féminin, ça. Hein, on leur donne ça, tac, voilà. Donc, je disais... autour de cette table, Victoria. Bonsoir Victoria.
Bonsoir,
comment allez-vous,
Serge,
mon petit oiseau?
Très bien, mon
cher
Serge.
C'est bien. Bonne année.
Encore?
Oui, je décide maintenant toutes les émissions, je dis bonne année. Ah, et finalement, c'est le début de l'année qui finira le 22 janvier 2008. Goffin, salut.
Bonsoir Serge Lebekech. Je salue nos auditeurs et plus particulièrement ceux qui nous écoutent dans la région de Washington sur radiocourtoisie.com. Mais je n'ai aucun mépris pour ceux qui nous écoutent à Tokyo ou à Canberra.
Il y en a même qui nous écoutent aux Indes, il y en a même qui nous écoutent au Japon, il y en a qui nous écoutent...
Dans le
9-3, c'est des héros,
loin,
ils écoutent avec des écouteurs, ils entendent la boue,
comme pendant la guerre dans le
voilà.
Placard.
Jean-Pierre Rondeau, bonsoir.
Bonsoir, bonsoir les auditeurs.
Notre invité vedette de ce soir, c'est pour la première partie de la première partie, Bruno Maigret. Bonsoir Bruno Maigret.
Bonsoir à vous.
Je vous trouve, comme toujours, et à la fois élégant, dynamique, plein de punch.
Bah,
et je ne parle
merci,
pas de...
attendez de voir la suite.
Ouais, on verra. Bien, alors d'abord, je voudrais pousser un cri de protestation, parce que franchement, il y en a marre d'avoir de la neige au mois de janvier. C'est incroyable. Alors évidemment, quand on essaie, on ne sait plus comment on vit. Ils nous ont traqué le temps avec les bombes atomiques et tout ça. Donc, imaginez les responsables des autoroutes, par exemple. Le type, il arrive le matin, sifflotant, ça. D'un seul coup, il s'aperçoit qu'il y a 12 000 camions qui sont bloqués sur l'autoroute par la neige. On n'avait pas prévenu qu'il y aurait de la neige.
Mais si, il aurait
défendu. Le gars de l'EDF, alors.
En plein mois de janvier, de la neige. Invraisemblable. Comment voulez-vous gérer ce pays? Ce pays. Comme écrit Char.
Des réclamations.
C-P-E-H-I. C-P-E-H-I. Ce pays. Comment voulez-vous gérer un pays où il y a de la neige en janvier? Moi, je parie qu'il va faire chaud au mois de juillet, des trucs comme ça, invraisemblables, enfin.
On peut poser la question à l'ingénieur des ponts qui est assis en face de vous, Serge, en plus d'être polytechnicien.
Vous êtes pont ou...
Oui, je suis ingénieur chaussée. Des ponts et des chaussées, absolument.
Et vous en avez presque beaucoup, des ponts. Là, vous en avez fait un beau ces temps-ci.
Oui, j'en ai fait un superbe, n'est-ce pas? Mais j'en ai construit des vrais.
C'est vrai.
Puis les, non seulement des ponts, mais aussi des chaussées.
Et vous rendez compte qu'il y a des gens qui ne vous aiment pas politiquement et qui franchissent les ponts que vous avez construits tous les jours. Sans savoir autrement. Ils feraient des détours, les gars. Je ne passe pas sur le pont Maigret.
Mais est-ce qu'on peut demander sérieusement à Bruno Maigret ce qu'il pense de la panique habituelle de la, des directions de l'équipement quand il tombe trois flocons de neige qui fondent dans la journée et que le Parisien titre la pagaille?
Écoutez, c'est la question qu'il ne fallait pas poser, parce que là, vous m'obligez à prendre ma casquette de fonctionnaire, d'ingénieur des ponts et chaussées, de représentant du ministre de l'équipement.
Mais vous êtes X,
et
tout
je
ça.
Vous dirais, oui, c'est vrai.
Alors,
oui.
C'est vrai que la radio Courtoisie, c'est la radio où il y a le plus de X.
Mais c'est formidable. Hein?
Donc, vous pouvez parler librement.
Mais je pense que... Il y a, c'est vrai, objectivement, techniquement, c'est un problème qui n'est pas aussi évident à résoudre que ça, parce que pour saler, pour que les chaussées ne soient pas saturées de neige, il faut saler à l'avance. Et saler à l'avance, bon, bah, ça implique un minimum de, effectivement, de coordination.
Ça coûte en
qui,
plus.
Qui parfois est loupé, hein, parce que on n'a pas bien anticipé les chutes de neige, ou on les a sous les évaluées, ou pour des raisons budgétaires, on n'avait pas mobilisé les équipes en nombre suffisant. Et dès que vous ne faites pas la prévention suffisante et qu'il y a de grosses chutes de neige, à ce moment-là, c'est le cercle vicieux.
Enfin,
puis la situation
en gros,
qu'on a vue.
En gros, on peut peut-être s'attendre, comme, je sais pas, moi je voudrais pas être désagréable, mais j'ai l'impression que, bien que n'ayant pas fait le Polytechnique, moi, j'ai même pas le bac, c'est vous dire. En janvier, je me doute qu'il peut arriver de la neige.
Mais ceci étant, je crois qu'il faut aussi... qu'une fois pour toutes, on accepte de considérer que dans le monde réel, tout n'est pas merveilleux, tout n'est pas réglé au quart de tour, que ce soit la nature ou que ce soit les sociétés humaines. Moi, je suis un peu choqué, pour tirer un peu la philosophie de tout ça, des réactions indignées de tous ceux qui ne supportent pas le moindre problème.
Ouais, je crois que c'est vrai.
C'est dans l'histoire de l'humanité, c'est dans la nature de l'homme, c'est dans la réalité du monde.
Cela dit, on pourrait effectivement renverser la question en disant que le camionneur qui rentre sur l'autoroute et qui voit qu'il commence à floconner un petit peu, si 5 km plus tard il est arrêté par la neige, on peut lui dire tu n'imaginais pas que tu aurais des problèmes. Bon, c'est vrai.
Je croyais même qu'on lui aurait interdit.
Non, justement pas.
Je constate toujours pour défendre les services de l'équipement, que dans les pays qui sont très habitués à la neige, ils ont aussi des problèmes de ce type.
À New York, notamment,
ou en Allemagne, ou en Autriche.
Une très belle lettre dans le dernier numéro du Libre Journal, c'est une lettre qui a été envoyée par un shérif d'un comté qui a été complètement enseveli sous la neige il y a quelques jours, là, par la tempête. Elle est très drôle. Alors je vais pas la lire parce qu'elle est trop longue, mais elle est très très marrante. Où le gars dit oui, ben qu'est-ce qu'on a fait? On n'a pas porté plainte, on n'a pas accusé Bush, on n'a pas convoqué le gouverneur, les vedettes sont pas venues nous voir, on n'a pas fait venir d'Hollywood, on a pris des pelles, on a dégagé, puis on a, comme il y avait plus d'électricité, on a sorti les vieux poêles et on s'est réchauffé comme ça. Puis voilà.
Je peux apporter un peu d'eau au moulin de notre ingénieur des ponts, Monsieur Maigret, puisque j'étais dimanche à Washington et qui s'est mis brusquement à neiger d'abondance, et je peux vous dire que là-bas aussi, dans le pays de l'efficience, de l'efficacité,
voire de l'efficacité, ouais,
c'était efficiency, ouais. C'était une pagaille fantastique, c'est-à-dire que nous roulions sur les autoroutes entre deux haies, bon j'exagère, mais enfin tous les 100 mètres il y avait une voiture dans le fossé, il y avait deux types en train de s'expliquer autour, voilà. Et d'ailleurs j'étais en voiture avec un Français qui m'a dit immédiatement, oh là là tu vas voir le bazar que ça va être, leur service public, les services publics c'est nul, et puis un kilomètre plus loin on était derrière une saleuse et ça s'est pas mal arrangé. Mais dès que ça s'est arrangé, on a vu aux informations le soir, explosion souterraine à Washington. Alors là, j'ai pas d'explication à vous donner, mais les égouts explosent. Et on a vu aux informations une plaque d'égout qui montait à 50 mètres de haut en éclatant en même temps. C'est quelque chose d'hallucinant. Je sais pas s'il y a des gaz méphitiques qui s'accumulent. Mais enfin, c'est quand même extraordinaire. Explosion d'égout entre deux plaques de neige verglacées.
Mais à propos de Dense, non, c'est pas...
Les problèmes d'EDF me paraissent moins justifiés. parce que à chaque fois qu'il y a des problèmes climatiques, que ce soit des tempêtes de neige ou des tempêtes tout court, il y a des câbles électriques qui tombent, il y a des lignes qui sont coupées. Moi, je regrette qu'on n'ait pas lancé un très grand programme d'enfouissement de toutes les lignes électriques et télécommunications qui mettrait à l'abri notre système de toutes ces difficultés, de tous ces aléas. Et au demeurant, ce sont des travaux qui seraient bien bénéfiques, d'autant que, on le sait, les travaux, ça relance l'économie. Et là, ce sont des grands travaux qui peuvent être faits par des petites entreprises. Je crois qu'il y aura un grand projet à mener pour donner du travail dans le pays où on en manque, d'enfouissement généralisé, en plus sur le plan de l'environnement et de l'esthétique. On y gagnerait grandement.
On peut surtout s'étonner que des arbres tombent sur les lignes, parce qu'on pourrait penser que les arbres sont à distance raisonnable.
Ah, mais on ne peut pas couper les arbres, c'est ça le problème. Je voudrais dire un mot aussi sur l'abbé Pierre, qui nous a quittés.
Soyez poli.
En vrai,
Des mortuis, nil, nisibéni.
Oui, bon, bah, alors on va arrêter tout de suite si vous commencez à parler d'étrangers. Mais. Je voudrais rappeler quand même deux ou trois détails biographiques qui ont été apparemment passés sous silence. Le premier, c'est que ce grand cœur, en 1946, quand il était député MRP, avait pris la parole à l'Assemblée nationale pour protester contre le fait que certains envisageaient d'accorder aux jeunes collabos qui étaient en prison, dans l'Est, dans les Vosges, où il faisait à peu près moins 12 dans les cellules. On avait envisagé peut-être de fermer les fenêtres des cellules pour qu'ils crèvent pas de froid. Et lui, il avait pris la parole pour protester en disant que c'était un scandale de s'occuper de ces salauds et qu'il fallait les laisser crever. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que son histoire de 54, personne tout le monde persiste à dire qu'il a été héroïque, qu'il a mobilisé la foule pour
au secours.
Eh bien, il faut quand même savoir une fois pour toutes que toute cette histoire est une fabrication médiatique de toutes pièces qui consistait à foutre en l'air le projet de reconstruction du pays qui avait été mis au point par un véritable génie et qui avait dit il faut surtout pas construire de logements provisoires parce que si on fait du provisoire en France, ça dure toujours et ce qu'on aura construit de provisoire, on ne le construira pas de définitif. Et comme les entrepreneurs, comme le lobby des entrepreneurs des travaux publics voulait construire à la fois le provisoire et le définitif, ils ont mobilisé l'abbé Pierre qui appartenait à leur groupe puisqu'il appartenait, il était membre du groupe X-Crise, enfin il était en marge du groupe X-Crise, il appartenait au groupe synarchique ou assimilé, et donc il a fait ce sinoche-là, préparé par RTL d'ailleurs, par Radio Luxembourg, ça a mobilisé les gens, le résultat c'est qu'on a construit effectivement des cités d'urgence, et je signale aux amateurs que s'ils veulent visiter une cité d'urgence, il y en a encore une qui fonctionne à Saint-Pierre-des-Corps, 52 ans plus tard, mais on n'a jamais construit les immeubles qui étaient prévus à l'époque, qui étaient un plan de réurbanisation humaine de la France, et on a construit à la place les cités qui aujourd'hui nous pondent des voyous à longueur de journée. Voilà un des résultats du comportement de l'abbé Pierre. Enfin, il y a quand même un détail que je voudrais rappeler, c'est que moi, je ne porte pas de jugement sur le comportement privé et intime des gens, ils font ce qu'ils veulent de leur vie privée, mais c'est pas moi qui le raconte, c'est lui-même qui a cru nécessaire de raconter dans ses mémoires récentes que quand il était prêtre, ça l'empêchait pas d'aller voir ailleurs s'il y était. Je comprenne qui peut. Et je m'en fous personnellement, un prêtre il fait pas vœu de chasteté, il fait vœu de célibat, c'est pas tout à fait la même chose. Mais je trouve que raconter ça dans un bouquin, c'est quelque chose de répugnant, voilà. Donc j'ai vraiment une grande détestation de l'abbé Pierre, je le dis, je sais que c'est pas à la mode, enfin en général je suis pas très à la mode, il faut dire. Et la seule chose qu'on peut dire, d'ailleurs il y a un papier dans le prochain numéro du Libre Journal qui dit ça pour la fin, c'est que on peut que prier le bon Dieu qu'il tienne plutôt compte de ses bons côtés que ses mauvais, s'il en a. Voilà ce que je voulais dire.
Étonnant, c'est qu'ils ont assez tué son amitié avec Forisson.
Ah, Forisson, pas tellement, c'est surtout avec Garaudy. Mais enfin, il a fait vite machine arrière. Hein, ouais. Et on peut pas dire qu'il ait beaucoup insisté pour le défendre. Non, ce qui est intéressant, c'est de voir que qui lui a rendu hommage. C'est quand même extraordinaire. Chirac lui a rendu hommage en disant c'est un grand Français qui disparaît, un modèle moral, etc. Mais cette espèce d'abruti, il y a trois semaines ou il y a trois mois, il nous disait que la loi morale peut jamais prévaloir sur les lois de la République. Enfin, c'est n'importe quoi. La mère Buffet, qui est allé célébrer la gloire du cureton de gauche. Il était, naturellement, c'était un compagnon de route des communistes. Toute sa vie, il a travaillé avec eux. Donc tout ça, plus l'imposture, ça sent la vieille canadienne mouillée. Et non, j'aime pas le personnage. Je sais pas si vous l'avez senti, non?
Un petit peu, mais bon.
Voilà. Mais alors maintenant, on va se remettre avec une belle histoire. Je voudrais vous lire une très très belle histoire, comme je les aime. Non, mais c'est vrai, vous allez voir. C'est une histoire incroyable. Michael Cooper, qui est un Australien, quand il avait 20 ans, il a fait, dans les années 80, un voyage au Kenya. Et lors d'un safari, il s'est éloigné de son groupe, et il s'est trouvé face à face avec un éléphanteau qui semblait blessé à la patte avant gauche, qu'il maintenait levée. Alors Michael Cooper, très calmement, s'est approché de l'animal, parce qu'il voyait bien qu'il n'était pas agressif, qu'il souffrait. Il a posé un genou par terre, et avec son couteau, il a retiré l'épine que l'éléphant avait dans la patte, que l'éléphanteau avait dans la patte. Quand l'animal a été soigné, il a pu reposer sa patte par terre, et puis il a bari longuement, comme pour remercier Michael Cooper, et il est parti. Ça, c'était dans les années 80. Et tout récemment, Michael Cooper s'est rendu avec son fils, âgé de 11 ans, dans un zoo de Sydney. Et quand ils sont passés devant l'enclos des éléphants, un des éléphants, brutalement, s'est mis à taper sur le sol avec sa patte gauche. Alors Michael Cooper s'est arrêté, puis il a regardé, il s'est dit, c'est pas possible, parce qu'il a vraiment l'air de me reconnaître. Alors il s'est approché, il a regardé l'éléphant, et l'éléphant continue à taper avec sa patte gauche, et en levant la trompe en signe de bienvenue et tout. Alors Michael Cooper, qu'est-ce qu'il a fait? Ben, il a trouvé ça marrant, il a sauté le mur, s'est dirigé vers l'éléphant. À ce moment-là, l'éléphant a tendu sa trompe, il l'a attrapé par la taille, il l'a monté, et très violemment, il l'a écrasé par terre. Et en quête faite, on s'est aperçu que c'était pas du tout le même éléphant.
J'étais sûr.
Voilà, j'adore cette histoire. Voilà, repas et sandwich sans porc pour les naufragés de la route. Alors, nos amis du bloc identitaire Île-de-France, SDF, la soupe des Français, enfin la solidarité...
Autorisée, interdite.
Ils ont fait deux coups superbes. Le premier, c'est qu'ils ont dit, on voulait pas qu'on fasse de cochon. D'accord, on arrête, on fait le poulet. Alors déjà, les poulets, ils vont pas être contents, parce que la soupe au poulet, Mais c'est surtout que... Ils ont bien précisé que, naturellement, ils n'étaient pas en mesure d'assurer que le poulet avait été sacrifié d'une façon cachée ou halal. Donc, normalement, pareil, c'est pareil, ils peuvent pas en manger. Hein. Mais là, maintenant, ils portent le débat sur un autre terrain. Ils disent, à cause des chutes de neige soudaines et très importantes, des milliers d'automobilistes et de camionneurs ont été bloqués sur les routes et autoroutes de France, et les pompiers, nous dit-on, leur ont servi plus de 2500 repas et sandwichs. Alors il dit, est-ce que la Halde s'est assurée qu'il n'y avait pas de sandwich aux rillettes, au jambon, au saucisson, au saucisson à l'ail? Parce que là, il faut absolument poursuivre les pompiers. Hein. Mutz, tu m'entends? Faut bouger, Mutz. Et puis Schweitzer, l'honnête monsieur Schweitzer, l'homme qui dirige la Halde, vous savez ce qu'il faisait avant, hein, Schweitzer, le dirigeant de la Halde? Avant, il s'occupait des menus plaisirs de Mitterrand. C'était lui qui organisait les écoutes téléphoniques du vieux cochon, les écoutes téléphoniques clandestines. Je vais vous dire s'il est qualifié pour donner des leçons de morale. Moi, j'aime beaucoup qu'on me donne des leçons de morale.
Il est qualifié pour donner des millions d'euros à la RATP pour afficher en 4 par 3.
Dénoncer les...
Vous êtes discriminé, téléphoneur Harald.
Pourquoi il dit ça avec l'accent bourguignon?
Oh, pardon.
Je signale d'autre part. Tiens, on va téléphoner à la Halde, d'ailleurs. Si quelqu'un a le numéro, vous pouvez appeler la Halde pour dire que Carrefour, les magasins Carrefour, organisent la foire au porc. La fraîcheur et les meilleurs prix du mercredi 3 janvier au samedi 13 janvier. Ah, c'est fini.
Ils vendent le Coran d'habitude, là, ces ventes vont se faire.
J'espère que c'est pas sur le même stand, parce que ça serait mal vu. Voilà, donc c'est le Carrefour fait des cochonneries, ils vendent du porc à bas prix. Alors le type qui peut manger que du poulet ou du bœuf, eh ben il est niqué, il a pas des prix comme les autres. Voilà. Non, c'est inadmissible tout ça, inadmissible. Voilà, lundi au cours de son émission, a dit que le plus grand bien du préfet Mutz, c'est un camarade parachutiste de Saboureau. Je souhaite que Beckett explique à Saboureau que Mutz a fait plusieurs procès pour la soupe au cochon. Ah ben oui, il a dû se parachuter sur les sous.
Non, c'est
sur
la pas, tête. C'est, ils font partie, je crois, tous les deux d'une même association qui est l'association des officiers ayant commandé au feu. Voilà.
Très bien.
Et le feu obéit.
Le feu où ils font brûler les... C'est bien, félicitations, M. Mutz. C'est une belle fin pour un officier qui a commandé au feu, d'envoyer sa troupe mettre des coups de pied dans les marmites de soupe aux cochons.
Le plus terrible, et je suis donc, j'ai engagé une procédure contre sa décision, mais le plus terrible, c'est que cet officier parachutiste est interdit aux pieds noirs d'honorer leur mort du 5 juillet. C'était le 5 juillet 2006, donc enfin, on va voir.
C'est du bon.
On va voir ce que va dire la justice.
On pourrait peut-être appeler le docteur Dor, Franck, s'il vous plaît, pour lui demander comment s'est passée la journée d'hier, puisque c'était la marche pour la vie.
Alors, c'était pas samedi ?
Hein ? Oui, samedi. Non, dimanche. Je dis d'hier, parce que moi, je ne vis que le week-end. Le reste du temps, je dors. Donc, je me réveille pour l'émission, là. Voilà, alors je profite du petit laps de temps qui m'est imparti pour annoncer que Anne Brassier, Didier Rochard et Yves Tarantic vous invitent à assister au concert donné par Vladimir Chevel au violoncelle et Pierrette Molinari au piano, Bach, Vivaldi, Tchaïkovski, Glinka, Rachmaninov, Saint-Saëns, Massenet, Pergolese à la Fondation Dutch de la Meurthe, 37 boulevard Jourdan, 75 014 Paris, RERB, cité universitaire. En face de la Fondation, samedi 10 février à 20h.
Entrée libre.
Entrée libre et gratuite. C'est la sortie qui est payante. Comme toujours. Non, c'est pas vrai, c'est gratuit complètement. Voilà. Est-ce que le docteur est avec nous?
Oui, oui.
Ah, bonsoir,
oui,
docteur.
Oui, très aimable.
Comment cela s'est-il passé? Alors, racontez-moi, vous avez 30 secondes.
Voilà, en quelques secondes. Écoutez, c'était un succès. On a annoncé, enfin, nous avons dit 15 000, en fait, c'est moins, c'est 8 000, mais c'était 3 000 d'après les renseignements généraux. C'est un succès parce que c'était très bien ordonné, nous étions plus nombreux que la dernière fois, et la grande nouveauté, c'est que 4 évêques, ça c'est remarquable, 4 évêques étaient font partie du comité de soutien. Il s'agit donc de Mgr Santaine, de Vannes, de Mgr Bagnard de Belley-Ars, de Mgr Ray de Toulon, et de l'archevêque d'Avignon, Mgr Quatennens. Et alors, je dois ajouter ceci, alors une chose plus personnelle, mais qui à mon avis a beaucoup de valeur également, et peut-être encore plus de valeur si je puis dire, c'est que le cardinal Barbarin m'avait envoyé une carte de vœux, on avait fait un email, et à tous les évêques de France, il m'avait répondu sur une carte de vœux très aimable, me citant Saint Paul aux Éphésiens, Sylvain, parlant de joie, et il disait « Merci, continuez ». Eh bien, c'est la première fois qu'un évêque, et même un archevêque de France, nous donne en quelque sorte ses consignes.
On a fait du chemin depuis que la...
Qui sont celles du pape.
Depuis que le nonce du Vatican à Paris vous livrait à la police pour aller en prison.
C'était un très grand pas. C'est un très grand pas parce que là, non seulement c'est Rome qui veut nous encourager, qui nous a encouragés, continuer votre bonne bataille, mais encore ce sont les ordinaires, si je puis dire, de France. Et là c'est, je veux dire, ça laisse beaucoup d'espoir. Et voilà. Alors, est-ce que c'est ça? Mais il y avait aussi les AFC, ce qui est nouveau. Donc, les journaux, il y a eu une très bonne, je trouve, très bonne répercussion médiatique, à savoir même les journaux. Gratuits, qui tirent à pas mal, 200-300 000 exemplaires qui sont lus, et c'était bien, il y avait des bons comptes rendus dans Libération, dans des journaux qui ne sont pas toujours favorables. Alors, je pense, et puis alors, la grande chose, évidemment, c'est le côté politique. Ça, il y avait là Philippe de Villiers, qui était là avec un petit entourage. Il y avait aussi donc plusieurs personnalités du Front National, dont Baïvet, je crois, Michel Baïvet, et Michel de Rostelant, j'ai un peu oublié les autres. Ah si, Bacroute. Enfin voilà. Alors, donc ceci pour dire que, au fond, nous sommes pris au sérieux, si je puis dire. Enfin, nous, c'est pas nous qui sommes intéressants, bien sûr, mais par les politiques, par les évêques. Et ça, c'est quand même relativement nouveau. Alors, je pense que les choses... Pour moi, c'est une aurore. arrêter. C'est une aurore. Je crois que nous allons peut-être bientôt voir la fin de ce cauchemar, de ces millions, millions et millions de morts. C'est effrayant. Et il y avait alors beaucoup de jeunesse, beaucoup de, même des enfants, des garçons, des filles de 12, 13 ans ou plus âgées, mais beaucoup, vraiment beaucoup. Il y avait aussi dans des berceaux, c'est-à-dire que l'âge moyen, finalement, était assez bas. Oui, c'est assez...
Alors, oui, il y avait beaucoup d'enfants, c'était assez charmant, d'ailleurs.
Ah, vous y étiez, vous avez vu.
J'ai vu, non, je n'y étais pas, je dois confesser que je n'y étais pas, mais j'ai vu ça sur les écrans de la télévision.
C'était animé, enfin voilà.
Non, je dis pas, c'est pas d'ailleurs pas du tout sur les écrans de la télévision, je dis une bêtise. Je l'ai vu parce que des participants à cette marche ont envoyé des images par Internet, et pas seulement des images, des vidéos par Internet.
Très bien, très bien. Très bien.
Voilà, donc on recommence, enfin, vous recommencez l'année prochaine?
On recommence bien entendu l'année prochaine. Je pense que ça va être alors là. Je pense qu'il y aura des progrès encore qui seront faits. On ne peut plus arrêter. Je crois que maintenant que la boule est lancée, on ne peut plus. C'est qu'une boule de neige, forcément elle grossit en descendant. Et là, la pente est dans le bon sens, je dirais. Ah ben, Dieu est grand, voilà.
Merci docteur. Vous nous rappelez s'il vous plaît le nom et l'adresse de votre association?
Oui, alors, très volontiers. Alors, association SOS tout petit, 11 rue Tronchet. Je vous donne les téléphones, 01 47 83 97 42 et l'autre 01 40 61 06 28. Alors nous avons un petit journal, comme vous savez, le SOS tout petit actualité, qui tire tous les trimestres, un numéro tous les trimestres. Alors, il en coûte 10 €, ce n'est pas... Ah, et nous avons, dernière chose, pardonnez-moi, je profite, je me tairai après, nous avons le 10 février, un samedi, donc samedi 10 février à 14h30, place du marché, à Versailles, une réunion, une manifestation SOS tout petit. Voilà.
10 février à quelle heure?
Le 10 février à 14h30, place du marché.
Entendu.
14h30, merci mille fois.
Merci docteur, à bientôt. Bien, Bruno Maigret, je vais commencer par une question d'auditeur qui me paraît capitale. C'est un auditeur qui, inspiré par notre conversation un instant, vous interroge sur une vieille histoire. C'est cette équipe d'ouvriers chargés d'entretenir la voirie qui a téléphoné à son chef en disant « Chef, on est bien embêté, on a oublié les pelles ». Et le chef leur a répondu « Ça fait rien, vous resterez appuyé contre la camionnette ». Alors cet auditeur demande si c'est vous qui avez répondu ça. Voilà. Bon, arrêtons les taquineries et parlons sérieusement. Est-ce que vous voulez nous livrer un bilan de
l'Union Patriote.
De l'Union des Patriotes.
Sur Radio Courtois.
Mais je vous interromprai dans 3-4 minutes parce qu'on aura au téléphone quelqu'un, mais après je vous redonnerai la parole, je vous rassure.
Très bien, bah écoutez, oui, comme vous le savez, l'Union des Patriotes a été fondée le 20 décembre dernier. C'est donc encore tout récent, à l'occasion d'une rencontre que j'ai eue avec Jean-Marie Le Pen à Saint-Cloud. Et je crois que c'est quelque chose de tout à fait exceptionnel, car dans l'histoire politique, en tout cas l'histoire contemporaine, on n'a pas d'exemple de ce type de mouvement, de personnalités qui sont, c'est vrai, profondément divisées, violemment divisées, et qui se réconcilient, se retrouvent, créent une union dans l'intérêt national, pour un objectif politique au service du pays. Et je crois que ça a quand même frappé les esprits. Moi, j'en ai eu énormément d'échos très positifs dans l'opinion, dans le public. Et c'est quelque chose qui constitue un point de départ qu'il nous faut maintenant construire en marchant progressivement, développer, qu'il faut renforcer, dont il faut assurer la pérennité. Alors ça a commencé par les élections présidentielles, puisque cet accord et cette union, elle se traduit par mon retrait de la bataille présidentielle. Jean-Marie Le Pen étant le candidat unique de cette union, nous l'assurons de notre soutien et nous allons mener campagne. Quand je dis nous, c'est bien sûr le MNR, le Mouvement National Républicain, nous allons mener campagne pour lui, avec l'objectif de faire en sorte que il y ait pour les Français un autre choix que le choix du couple infernal Ségo-Sarko, que les Français puissent choisir réellement et que Jean-Marie Le Pen soit au deuxième tour. C'est notre objectif numéro un.
Alors on va voir un peu plus tard ce que vous proposez pour y parvenir. En attendant, je vous demande de coiffer les casques et je demande aux auditeurs de se montrer attentifs car nous avons au téléphone, sauf erreur de ma part, M. Petit Gaulois.
Bonsoir.
Bonsoir, M. Petit Gaulois. Vous avez un nom magnifique. Et vous avez une initiative qui me paraît très heureuse, qui a consisté à créer un forum informatique, un forum Internet.
Oui.
Qui est consacré, pas réservé, mais enfin qui est ouvert à tous les internautes qui s'intéressent à Radio Courtoisie.
Oui, c'est ça. Donc, Petit Gaulois, c'est mon pseudonyme. Ce forum, au départ, avait été créé par quelqu'un d'autre. Ça fait environ 2 ans qu'il existait, mais en fait, il vivotait. Il existait, en fait, quasiment que sur le papier. Et depuis le mois de novembre, il y a donc des centaines de personnes qui passent dessus presque tous les jours. Enfin, pas tous les jours, mais on va dire 30 à 40 personnes qui passent par-dessus tous les jours. Et donc, le sujet principal de notre forum, c'est Radio Courtoisie et tout ce qu'il y a autour. Donc, ce sont les sujets d'actualité, c'est la culture, c'est la religion... Et donc, évidemment, l'actualité de la radio.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que, bon, comme vous ne l'ignorez pas forcément, la radio a connu récemment quelques turbulences.
Oui, oui.
Et votre forum donne la parole aux auditeurs à propos de ces turbulences. Pas uniquement, d'ailleurs, parce que plein de sujets sont traités, mais il parle aussi de ça. Et quelle est l'impression générale? Quelle est votre impression générale sur leur réaction?
Ma foi, l'immense majorité d'entre eux déjà s'interrogent, parce que on ne dit pas beaucoup de choses, en fait, à l'antenne. Donc beaucoup de gens cherchent sur Internet des réponses. Donc déjà, beaucoup de gens viennent pour discuter, pour avoir les quelques communiqués qui existent, et pour parler autour de cela, pour être rassurés. Beaucoup d'auditeurs cherchent à être rassurés, en fait, sur la situation, et l'immense majorité, en fait, craint que Radio Courtoisie puisse disparaître un jour. C'est qu'en fait, Radio Courtoisie est quand même très très aimé par ses auditeurs, et c'est normal qu'ils aient peur que ça disparaisse, quoi.
Donc, votre diagnostic, si j'ose dire, c'est un grand courant de sympathie pour la radio,
oui,
et un courant d'inquiétude qui est lié aux turbulences actuelles.
Certainement, oui, absolument. Et donc, par-dessus ça, viennent se greffer, on va dire, 4 ou 5 personnes qui, eux, ont pris parti dès le départ de dire du mal de la direction de la radio et qui, donc, depuis le mois de novembre, inondent de messages le forum.
Est-ce que vous...
Ils sont une minorité, mais on n'entend quasiment que parce qu'en fait, ils postent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais ils sont une infime minorité.
Est-ce que vous exercez, je ne dirais pas une censure, mais ce qu'on appelle un rôle de modérateur sur les messages?
Oui, sachant qu'on est légalement obligé.
Mm-hmm.
Parce que la loi française est très claire, on n'a pas le droit de laisser passer les insultes, on n'a pas le droit de laisser passer les mensonges. Ces lois sont particulièrement dures pour tout ce qui touche au racisme, à l'antisémitisme, etc., etc., etc. Donc, de toute façon, on a l'obligation légale de modérer. Et donc, nous, en plus, on a également décidé de ne surtout pas laisser passer tout ce qui pouvait apparaître comme une rumeur. C'est-à-dire qu'il y a un débat autour de la radio et de sa situation. On peut dire et partager le point de vue que l'on veut, à condition d'avoir des arguments derrière. Mmh. Donc, nous ne laissons pas passer tout ce qui est insulte, et nous ne laissons pas passer tout ce qui est sans argument, sans fait, si vous voulez. Or, pendant longtemps, ça a été le cas. Avant que je reprenne le forum, pendant très longtemps, en fait, c'était vraiment la foire d'empoigne et la rumeur à tous les étages. Et bref, c'était vraiment un chaos complet.
Mais au fond, ça vous prend un temps fou, ça.
Oui.
Parce que de faire un travail de modérateur, et de ça suppose de lire tous les messages,
oui,
de réfléchir à leur contenu, de voir s'ils constituent un risque pour vous ou pour la radio.
Oui.
Et je voudrais que vous le précisiez, vous faites ça de façon totalement bénévole, bien entendu.
Alors, je fais ça de façon absolument bénévole. Je me suis entouré d'une équipe de modérateurs et d'administrateurs qui fait ça de façon tout à fait bénévole, et nous ne gagnons pas un centime à faire cela.
Oui, je vois pas très bien d'ailleurs comment vous pourriez gagner un centime.
Nous pourrions vendre mais ce n'est pas le cas.
Vous pourriez peut-être demander de l'argent à ceux qui nous insultent pour passer leur message, ça serait un moyen de rentabiliser l'opération, qu'on partagerait par exemple, non?
Oui.
Ça vous est pas venu à l'idée? Je pense que vous êtes quelqu'un de désintéressé. Quelle est la tendance générale? Elle est donc plutôt favorable, vous me dites.
Plutôt favorable à quoi?
Bah à la radio en général.
Ah oui, 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 ouais. Évidemment, oui, 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 oui. C'est, oh là là, en deux ou trois mois, on a dû avoir un seul opposant à la radio.
Oui.
Non, c'est vraiment, c'est entre auditeurs de Radio Courtoisie, nous sommes entre nous et entre sympathisants, vraiment.
Et lorsqu'ils ne...
On peut pas retrouver ailleurs.
Lorsque ces auditeurs ne parlent pas de Radio Courtoisie, de quoi peuvent-ils parler et de quoi parlent-ils?
Eh bien, déjà de l'actualité. L'actualité, ma foi, des choses simples, des choses donc, qui ont trait à la culture en général, la musique, la religion, enfin, tout ce qui tourne autour de l'actualité.
Et je me suis laissé dire que vous aviez été victime d'une provocation particulièrement vicieuse récemment.
C'est pas tout à fait une provocation, en fait. Il y avait donc... on nous a fait fermer le forum sur la base d'un message où une des personnes du forum, se querellant à propos de je ne sais plus qui, disait « Ah oui, Madame Machin ne dirait pas la même chose si sa fille avait été violée par une bande de jeunes. » Voilà tout ce qu'il a dit. Le message existe encore, tout le monde peut aller le consulter.
Ouais, et pour ça, vous avez été...
Et donc, sur la base de ça, on nous a dit qu'on était racistes et antisémites et on a fermé le forum. Voilà.
Si elle aurait dû dire par une bande de vieux, comme ça, n'avait pas de souci à se faire.
Là, ça aurait été du racisme anti-vieux.
Ah ouais, voilà. Mais c'est moins grave quand même.
Voilà. Et donc, bon, ben, tout le monde peut aller vérifier. Les documents existent encore, je n'invente rien.
Allez le vérifier à quelle adresse si elle n'est pas secrète.
Oui. Ah, c'est sur mon forum. Donc, en fait, il suffit de venir s'inscrire sur le forum. Et c'est dans un des sujets qui s'appelle, je crois, une journée inoubliable.
J'essayais de vous soutirer l'adresse.
Alors, l'adresse de mon forum, c'est http://.
C'est la barre oblique, hein,
c'est ça, oui. Et donc là arrive l'adresse importante. Radio Courtoisie.
En un seul mot.
En un seul mot. Point le forum. En un seul mot aussi. Point EU.
Oh oh.
Oui, on est passé à l'Europe. Là qu'on avait des problèmes en France, nous sommes passés à l'Europe.
Bon, est-ce que vous ne faites pas double emploi avec l'excellent blog de Radio Courtoisie que tout le monde aime et admire?
Alors, je l'aime et je l'admire aussi. Il fait un travail exceptionnel, il faut dire les choses comme elles sont. Et nous ne faisons pas du tout double emploi parce que lui travaille directement sur les émissions de la radio. Et nous, en fait, nous discutons autour des émissions de la radio.
Oui, alors là, il faut préciser quand même que ce blog de Radio Courtoisie, il est tout à fait extraordinaire, on peut dire, parce que, par exemple, vous avez presque en temps réel, c'est-à-dire presque immédiatement, toutes les adresses qui sont indiquées à l'antenne, vous avez tous les livres qui sont cités, vous avez un bref résumé des interventions de chaque invité.
Leurs photos.
Leurs photos. Les couvertures des livres, l'éditeur, le prix, l'endroit où on peut les trouver. Enfin, c'est une mine d'informations. Moi-même, elle me sert beaucoup parce que très souvent, des auditeurs me demandent « Vous avez parlé de tel livre, où peut-on le trouver ?» ou « Quel était son titre exact ?» etc. Et je ne cache pas que je vais sur le blog pour m'en souvenir parce que je ne garde pas tout ça en mémoire, bien entendu. Et c'est vraiment quelque chose de très utile. Vous en avez l'adresse ?
L'adresse
en mémoire.
Ouh là, attendez, pas sur moi.
Bon, quelqu'un nous la donnera.
De passer sur Google.
Ne vous faites pas. Oui, on passe par Google, bien sûr. Mais quelqu'un va certainement nous téléphoner pour nous la donner. Et je vous remercie d'avoir bien voulu intervenir. Donc, moi, je ne peux que recommander aux auditeurs qui se posent des questions sur ce qui se passe à la radio d'aller voir, non pas forcément, d'aller chercher, non pas forcément, des informations sur ce qui s'y passe, parce que ces informations, elles ne sont pas estampillées par la direction de la radio. C'est un forum qui est totalement libre, mais au moins ça leur donnera une idée du climat général et ils verront que je pense que dans l'ensemble on peut dire que le climat général à l'extérieur est beaucoup moins agité qu'on le croit d'habitude ou qu'on fait semblant de le croire. La grande question étant la question qui revient sans arrêt, pourquoi un tel n'est-il plus à l'antenne, pourquoi deux tels n'est-il plus à l'antenne, et ça je vais y répondre en peu de mots dans les secondes qui viennent. Merci beaucoup Petit Gaulois, à très bientôt et continuez à bien travailler et j'espère vous recevoir un jour dans le studio de Radio Courtoisie si vous venez à Paris, car vous avez la chance de vivre dans un pays qui est la France, mais dans une province de France qui est fort belle. Et je comprends que vous n'ayez pas très envie de venir dans nos murs où il y a beaucoup de jeunes. Et des vieux aussi, d'ailleurs. Merci, à bientôt.
Merci, Serge, au revoir.
Alors, je disais que j'allais donner une explication, elle va être très brève. En fait, l'affirmation selon laquelle il y aurait des exclusions, il y aurait eu des exclusions, est totalement dénuée de sens. Il n'y a eu aucune exclusion. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le temps d'antenne, que la fréquence que le CSA a accordé au CDRS, c'est-à-dire 95.6 et les autres, est assorti d'un temps d'antenne qui est de 24 heures sur 24. Ce temps d'antenne, c'est le CDRS qui en est dépositaire et il en fait ce qu'il veut. Il le confie à des gens qui viennent parler pendant ce temps d'antenne et qu'on appelle des responsables d'émission, parce que quand on leur donne l'émission, quand on leur donne le temps d'antenne, on leur dit, vous avez une idée d'émission, vous êtes responsable de cette idée et vous avez une heure et demie, une heure, trois heures pour vous exprimer. Mais ça n'est pas une embauche, ça n'est pas un contrat, ça n'est pas une prestation c'est une prestation qui n'a aucun caractère définitif. C'est une espèce d'invitation qui est faite, un peu comme vous recevriez quelqu'un chez vous si vous avez une maison de campagne pour passer une semaine, la semaine de Pâques. Alors il est évident que si pendant la semaine de Pâques où il est chez vous, le type vous dit, dites donc, qu'est-ce qu'on bouffe mal chez vous, et puis il faudrait changer les rideaux, puis moi j'aimerais bien participer à un débat familial avec vous pour savoir s'il faut refaire la moquette en rose ou installer une barrière électrique pour le jardin, vous lui dites, écoutez vieux, vous êtes venu passer quelques jours avec nous, ça veut pas dire que vous avez participé à la vie de la famille. Donc si vous n'êtes pas content, vous allez à l'hôtel. Et puis voilà. Et quand vous avez assez vu le type, vous lui dites, ben maintenant vous rendez la chambre. Voilà. Donc le gars peut pas dire qu'il a été exclu de chez vous. Il a été invité, puis il l'est plus, voilà. Donc c'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas d'exclusion. Il y a des gens qui ont été invités, qui se sont mal conduits, qui sont conduits comme des invités désagréables, et ils ont été priés d'aller exercer leur talent ailleurs, point à la ligne. Voilà ce qu'il faut dire pour que ça soit parfaitement clair. Je reviens maintenant. Bruno Maigret,
je vous en prie,
voler quelques minutes, mais je pense qu'il fallait dire ces choses-là. Alors, vous nous disiez que donc l'Union des Patriotes était en route, qu'elle visait à assurer le soutien des troupes du MNR, des cadres, des élus du MNR et des militants du MNR à la candidature de Jean-Marie Le Pen. Est-ce qu'il y a une contrepartie ?
Alors, il n'y a pas de contrepartie à ce stade, et je crois d'ailleurs que c'est très bien comme ça. Cela prouve que cette union, ce n'est pas le fruit d'un espèce de marchandage mercantile, politicien, je te donne tant de signatures, tu me donnes tant de circonscriptions, non. Nous avons fait quelque chose de politique, au sens noble du terme, je crois, et donc pour les élections présidentielles, c'est un soutien sans contrepartie. Sans contrepartie parce que la contrepartie, c'est le succès que nous espérons pour Jean-Marie Le Pen, qui sera bénéfique à notre pays dès lors que il faut un grand changement. Alors, ça ne veut pas dire que on en restera là. Il y a ensuite, après les élections présidentielles, les élections législatives, et il est logique que dans la foulée des présidentielles se met en place pour les législatives une synergie. Bon, moi, je dis clairement qu'il me paraîtrait souhaitable que nous ayons également des candidatures uniques pour les élections présidentielles. On a discuté. Pour les élections législatives, pardon, on a discuté, c'est quelque chose qui peut parfaitement se mettre en place, et je pense que ça serait souhaitable, ensuite, qu'il y ait des candidatures uniques pour les municipales, l'année prochaine, pour les élections cantonales. Je vous informe que nous avons une élection municipale partielle à Romainville, dans le 9-3, comme on dit, une élection municipale où il se trouve que le Front National n'était pas en mesure de faire une liste. Nous avions des difficultés à faire notre liste. Eh bien, il y a eu une entente locale, spontanée d'ailleurs, qui s'est faite. L'Union patriotique s'est faite localement, spontanément à Romainville. La liste vient d'être déposée. L'élection aura lieu le 11 février prochain.
Une liste commune, vous voulez dire ?
Oui, c'est une liste d'union des patriotes.
Hein ? Alors, on a dit, bon, j'ai entendu ça plusieurs fois, on m'a téléphoné, on m'a envoyé des mails pour me dire Marine Le Pen est très hostile à l'Union des Patriotes, elle essaye de faire rater la chose, etc. Et puis, j'ai regardé son entretien avec Michel Field. Vous l'avez vu, non ?
Non.
Eh bien, j'étais très surpris parce que moi j'avais tendance à croire effectivement qu'elle était très défavorable à l'Union des Patriotes. Et en fait, elle a donné une explication qui me paraît en tout cas plutôt intéressante. Et quand Phil lui a demandé en gros pourquoi elle avait refusé des meetings communs, des choses comme ça, elle dit parce que ça sert à rien. On va pas se convaincre entre nous. Le FN fait ses réunions, le MNR fait ses réunions, et puis on vise tous au même but qui est d'obtenir l'élection de la victoire de Jean-Marie Le Pen. J'ai trouvé que c'était assez convaincant. Quelle est votre opinion?
Oui, alors, c'est pas exactement ça, la réalité. La réalité, c'est que avec Jean-Marie Le Pen, tout se passe très bien. Nous avons repris des relations suivies, qui sont très cordiales, et il y a une véritable volonté de part et d'autre, entre lui et moi, de construire quelque chose autour de cette union patriotique, et par voie de conséquence, aujourd'hui, autour de sa candidature. Et nous avions convenu, en effet, de faire campagne séparée, car, comme vous venez de le dire, en effet, ça ne sert à rien de faire ensemble la même chose. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait un effet démultiplicateur, et nous avons toujours souhaité faire campagne pour Le Pen avec nos propres moyens, en plus de la campagne déjà lancée, déjà prévue par le Front National. Et d'ailleurs, je crois que nous avons, au bénéfice de la campagne de Le Pen, une position très, très importante à jouer, car moi, je suis mieux que quiconque en mesure de dire à tous les Français qui veulent un grand changement dans notre pays, qui en ont assez de cette classe politique totalement incapable de résoudre aucun des problèmes du pays, je suis bien, mais qui hésite dans le même temps, hein, à franchir le pas, à voter pour Le Pen, parce que ceci, parce que cela, je suis, je crois, mieux placé que quiconque avec mes amis pour leur dire, écoutez, franchissez le pas, passez au-dessus des réticences que vous pouvez avoir pour telle ou telle raison. Nous sommes bien placés pour vous le dire, on a eu des réticences, on en a encore, on est passé au-dessus, on s'est réconcilié, on le soutient, parce que c'est l'intérêt du pays. Donc, votez Le Pen, comme nous allons le faire, c'est vraiment l'intérêt de la nation. Alors, c'est ça l'esprit de l'Union des Patriotes. Mais, ce que là où il y a effectivement un problème avec Marine Le Pen, c'est qu'on a le sentiment qu'elle est réservée, réticente sur tout ça, au point qu'elle voudrait qu'il y ait, comme elle le dit elle-même, étanchéité des structures. C'est-à-dire que il n'y ait absolument aucun invité du MNR dans les réunions du Front National, aucun invité du Front National dans les réunions du MNR.
Karl Lang était présent à vos voeux.
Oui, par décision expresse de Jean-Marie Le Pen, mais ça a été critiqué, semble-t-il. Et nous allons lancer, nous, des réunions de soutien à Jean-Marie Le Pen au titre de l'Union des Patriotes dans tout le pays. Il va y en avoir une quarantaine à peu près. Et ce que nous souhaitons, c'est qu'il puisse simplement y avoir un représentant du candidat qu'on va soutenir. C'est une réunion de soutien au candidat. On souhaiterait que le candidat qui est soutenu soit représenté.
Oui,
qui pose problème, apparemment.
Il y a une ambiguïté, parce que la question maintenant, la vraie question, c'est de savoir si Jean-Marie Le Pen est le candidat du Front National, s'il est le candidat de l'Union des Patriotes, ou s'il est le candidat des Français qui vont voter pour lui, parce que c'est ça la vraie question.
Oui.
La grande habitude au présidentiel, c'est de dire, une fois qu'on est élu, quand je serai élu, je serai le président de tous les Français. C'est quand même difficile avant de dire, pour l'instant, je suis le candidat d'un seul parti, et puis une fois que je serai élu, je deviendrai le candidat de l'élu de tous les Français, y compris Besancenot, Buffet et compagnie. Ça me paraît assez incohérent, tout ça.
Oui, je crois que l'esprit de la campagne présidentielle, enfin de l'élection présidentielle, c'est de rassembler au plus large pour avoir le maximum de soutien et pour gagner l'élection. Donc je crois que quand on veut rassembler, il ne faut pas se cantonner à son propre parti. Il faut bien sûr s'appuyer sur son parti, mais il faut ouvrir au maximum. Je crois qu'il serait absurde que, par exemple, lors d'une grande convention que le Front National ou qui sera organisée au bénéfice de la candidature de Jean-Marie Le Pen, on dise aucun invité, parce que on accepte que les gens qui ont leur carte du Front National. C'est-à-dire qu'on n'invite pas à la convention de soutien à Jean-Marie Le Pen ceux qu'ils soutiennent. C'est un peu aberrant. Moi, je dis simplement...
Est-ce qu'il faudra interdire l'entrée aux journalistes du Chêne, par exemple?
Ben, je sais pas. Moi, c'est pas moi qu'il faut poser la question. Hein. Alors, moi, ce que je dis simplement à Marine Le Pen, c'est qu'elle doit avoir, elle ne doit pas avoir peur. Hein. Il n'y a aucune volonté. Je cherche pas à prendre sa place. Personne au MNR ne cherche à prendre la place de qui que ce soit au Front National, pour une raison d'ailleurs fondamentale, c'est que nous ne revenons pas au Front National, contrairement à ce que certains ont dit. C'est une union, c'est pas une fusion. Hein. Donc, il n'y a pas à s'inquiéter de ce côté-là. Par contre, quand elle dit étanchéité des structures, moi, j'ai quand même tendance à dire que quand on fait une union, si on fait chambre à part, c'est un peu stérile, si vous voyez ce que je veux dire. Et que, par conséquent...
La métaphore un peu aventureuse, mais...
Voilà, même si c'est une union libre, d'ailleurs. Je vois qu'il faut, voir les choses de façon pragmatique.
Quand on fait un pacte, c'est pas forcément pour se faire sonner les cloches, c'est ça que vous voulez dire.
Voilà. Alors,
on peut se demander si certains ne se sont pas réjouis de la scission en 98 quand on voit maintenant quels soins ils apportent justement à maintenir la division.
Bah, écoutez, moi, ce qui m'a un petit peu frappé, hein, c'est que, il se trouve que c'est toujours elle, Marine Le Pen a dit, il est difficile de passer de la haine vigilante aux embrassades. Ça m'a un peu choqué, je dois dire, parce que de mon côté, en tout cas, il n'y a jamais eu de haine à l'occasion de cette scission. Elle a été terrible, elle a été brutale, elle a été radicale. Bon, on peut en dire ce qu'on veut, mais il n'y a pas eu de haine. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que cette union est aujourd'hui possible. Et quand j'ai rencontré Le Pen la première fois pour parler de cette union des patriotes, il n'y a pas eu à éteindre une haine. J'ai rencontré quelqu'un qui n'avait pas de haine non plus. Donc je crois qu'il faut que tous ceux qui ont aujourd'hui encore quelques rancœurs, quelques réserves, prennent l'exemple de ce que nous avons fait avec Jean-Marie Le Pen, les mettent de côté, les surmontent, encore une fois, dans l'intérêt du combat qui est le nôtre, des idées qu'on incarne tous ensemble.
En même temps, on peut comprendre, par exemple, que quelqu'un comme Alliot, qui...
Secrétaire général du Front,
qui a raconté lui-même, donc je ne trahis pas de secret, qu'il était devenu le secrétaire général du Front parce que il avait écrit au moment de la scission une lettre à Jean-Marie Le Pen en disant « On est en train de vous trahir, moi je suis avec vous » et Le Pen l'a appelé à ses côtés. Et maintenant qu'il voit un rapprochement avec les gens qui ont justifié en quelque sorte son élévation au grade de secrétaire général, on peut comprendre qu'il est une espèce de... Comment dire, c'est un peu l'histoire du fils prodigue.
Oui,
ça ressemble à ça, c'est-à-dire que lui il dit mais moi j'ai toujours été là, moi, on tue le veau gras quand celui qui est parti qui revient. Oh non, pas le cochon, le veau gras.
Nous ne revenons pas, hein, nous construisons quelque chose ensemble. Je pense que si le Front National pouvait mener le combat pour la France tout seul, on le saurait déjà et il serait déjà au pouvoir. Je crois qu'on ne peut pas faire l'économie des bonnes volontés de tous ceux qui acceptent, d'ailleurs en faisant un certain nombre de sacrifices personnels, de s'engager dans ce combat commun. Et je crois que si on veut d'ailleurs, et il faut aller au-delà de cette alliance qui pour l'instant se limite grosso modo au FN et au MNR, si on veut aller au-delà, notamment en direction du MPF et de Philippe Duvillier, pourquoi pas d'ailleurs le Dupont-Aignan qui a quand même pris des positions, je dirais à la fois lucides et courageuses, et bien d'autres encore, si on veut faire cela, il faut avoir une démarche positive sur l'union qui est d'ores et déjà en train de se concrétiser. Hein. Et c'est absolument indispensable. Alors, ceci dit, nous ne nous arrêtons pas à ces aigreurs que j'entends ici ou là. C'est pas de cela que nous avons peur. Ce que nous voulons, nous, c'est construire. Nous allons aller de l'avant. Cette union, on va la faire. On l'a fait. Et ça se traduit notamment par le fait que les militants, les cadres du MNR sont en train de chercher des signatures pour Jean-Marie Le Pen.
Alors justement, j'allais vous en parler de ces signatures parce que il y a aussi quelque chose qui me paraît un petit peu paradoxal, c'est que Marine Le Pen dit mais signature des MNR, on n'attend pas après. Et d'autre part, Jean-Marie Le Pen et son entourage, et ses immédiats collaborateurs disent c'est extrêmement difficile, nous avons beaucoup de peine à réunir les signatures et nous redoutons de ne pas pouvoir y parvenir, ce qui, entre parenthèses, provoquerait probablement un cataclysme politique, parce que ça, c'est absolument intolérable. Mais il y a quand même une attitude qui me paraît curieuse, qui consiste à dire, on n'a pas assez de signatures, mais en tout cas, on n'a pas besoin de celles.
Il y a manifestement un problème. Vous vous souvenez, Serge, on recevait Bruno Gollnisch il y a 15 jours ou 3 semaines, on lui a posé la question, est-ce que le MNR vous apporte 140 signatures? Et il a, lui qui est souvent franc et même brutal, a éludé la question.
Alors, je vais être très clair sur cette affaire des signatures. D'abord, vous l'avez rappelé vous-même, nous avons fondé l'Union des Patriotes à l'occasion des présidentielles sans contrepartie. Alors, si c'est sans contrepartie, c'est sans contrepartie pour personne. Donc, quand j'entends dire ici ou là qu'on aurait promis 140 signatures à Le Pen, je dis c'est faux. On n'a rien promis du tout. Vu que, comme je viens de le dire, il n'y a eu aucune contrepartie d'un côté ni de l'autre, et que par conséquent, on n'a rien promis, on n'est pas tenu de donner une signature. Néanmoins, bien évidemment, puisque nous engageons sans ménager nos efforts, sans compter, on s'engage totalement dans cette bataille, dans cette campagne, on va tout faire pour qu'il ait ses signatures au plus vite, et on va effectivement s'efforcer d'en apporter le maximum. Sauf que, il faut savoir comment ça se passe. Quand j'entends dire il en a apporté 140, on n'en a vu que 7, mais celui qui dit ça ou celle qui dit ça, on a l'impression qu'elle n'a jamais été voir un maire et qu'elle n'a pas fait une seule signature par elle-même, parce que ça prend du temps. Il faut aller les voir un par un, il faut les convaincre, souvent ils demandent à réfléchir, il faut retourner les voir une fois, deux fois, trois fois. Donc effectivement, on en a porté une première dizaine et la machine se met en route parce qu'elle avait été un peu démobilisée
d'autant
aussi.
D'autant que ce que vous apportez, ce sont des engagements de signature.
Vous n'en êtes pas propriétaire, pas plus
voilà.
Que vos voix.
Alors, la machine se met en route et il nous faut convaincre tous les maires qui avaient signé pour moi, pour 2007, de signer maintenant pour Le Pen. Et je vous cache pas qu'il y en a qui refusent, il y en a qui sont pas d'accord. Et pour l'instant, c'est quelque chose qui apparemment s'avère difficile. Hein. Ça va pas nous arrêter. D'ailleurs, une fois qu'on aura épuisé ceux qui avaient signé pour moi, on ira en chercher d'autres qui n'avaient pas encore signé. On ne va pas s'arrêter. Ça va prendre du temps et ces signatures nous en apporteront le maximum. On verra d'ailleurs à la fin combien nous en aurons apporté, mais c'est à la fin qu'on jugera et pas maintenant.
Alors on va donner la parole aux auditeurs. Je vous demande, je ne sais pas si vous préférez répondre en bloc ou une par une, c'est comme vous voulez.
Cette alliance a été la meilleure nouvelle de ce début d'année, nous dit cette auditrice. Monsieur Maigret, vous avez dit que vous vous situiez à la gauche du Front National. Qu'en est-il exactement ?
Bon, écoutez, oui, je pense qu'on peut dire ça, hein, mais je crois qu'il faut ce classement droite-gauche est assez artificiel, donc je m'y étendrai pas davantage.
Alors là, c'est un reproche qui est un peu particulier. Monsieur Maigret, on ne peut pas dire que vous encombriez les studios de radio et de télévision. Vous êtes traité comme Jean-Marie Le Pen, c'est-à-dire par le mépris. Beaucoup de gens pensent que cette situation est intolérable. Comptez-vous indéfiniment courber les chines devant les médias et l'UMPS ?
Apparemment, cet auditeur n'a pas bien compris le sens de notre engagement, parce que j'ai pas le sentiment de courber les chines. Je pense que si on avait courbé les chines, on passerait davantage à la radio et à la télévision, justement. C'est parce qu'on ne courbe pas les chines on n'est pas les bienvenus sur ces antennes-là. Moi, je saisis quand même cette occasion, si vous me permettez, Serge, pour dire un mot sur le sujet, parce que je crois que c'est vraiment, on a coutume de dire, hein, les médias, c'est le quatrième pouvoir. Aujourd'hui, c'est le premier pouvoir. Hein. Et on le voit bien en chaque occasion. Et c'est par conséquent une entreprise de reconquête du pouvoir qu'il nous faut mener pour que ceux qui, au nom de la politique, ceux qui incarnent le peuple, puissent à nouveau avoir le dernier mot face à ces médias qui ont en quelque sorte usurpé le pouvoir en France.
Alors, d'un auditeur de Montpellier, que pensez-vous de la nomination aujourd'hui par Jean-Louis Debré, président de l'Assemblée nationale, au CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, du journaliste Rachid Arabe. Dominique Sopo, président de SOS Racisme, s'est félicité de l'arrivée au CSA de Rachid Arabe, qui avait déclaré il y a quelques années qu'au-delà de son métier de journaliste, sa priorité était la lutte contre l'extrême droite. La France est-elle encore un pays libre ?
Bah écoutez, cet auditeur a fait lui-même la réponse à sa propre question. Je crois effectivement qu'il y a quelque chose d'extrêmement malsain à laisser croire qu'on instaure la liberté et la neutralité des institutions en créant des comités, des conseils, des hautes autorités dans tous les domaines, et en mettant pour animer ces autorités, ces conseils et ces organisations, pour les diriger, en mettant des gens qui sont de parti pris, qui sont partisans et qui en réalité mènent un combat qui va toujours dans le même sens, celui de la pensée unique, celui des gens en place.
Un auditeur vous demande, sur RMC, à midi, on a attaqué la réunion du CRIF où tout le gouvernement est venu, en trouvant qu'il était inadmissible qu'on vienne prendre des consignes auprès d'un tel organisme.
Oui, mais quelle est la question ?
Oui, mais je crois que c'est la même, je crois que c'est la même réponse.
C'est une... Bon.
Non, ce qui est très grave, c'est... Enfin, ce qui est très grave, ce qui m'apparaît, c'est qu'il y a effectivement, de fait, une communautarisation de la France, parce que Rachid Arabe, c'est un excellent journaliste, moi j'ai toujours apprécié son travail, il le faisait d'une façon parfaitement honnête et tout, il est tout à fait normal qu'il appartienne au CSA, mais... Si vraiment il est entré au CSA en qualité d'adversaire déterminé de la droite, ou de ce qu'il appelle l'extrême droite, alors là on est complètement en dehors de l'épure, parce que la haute autorité, enfin le CSA est quelque chose qui doit être, alors là vraiment par définition, apolitique, qui n'a pas à se mêler des questions politiciennes. Absolument. Tout ce qu'on lui demande, c'est de faire respecter la réglementation. Tout son travail, c'est de faire respecter la réglementation et la loi sur l'audiovisuel, c'est pas autre chose. Or, la loi et la réglementation de l'audiovisuel n'a jamais prévu qu'il fallait interdire de parole la droite ou l'extrême droite. Ce qu'il faut interdire, et ça, il se prive pas de le faire, c'est tous les propos qui peuvent passer aux yeux de certains pour des propos de dérision, par exemple. Enfin, je vous signale que la dérision, c'est interdit maintenant par le CSA. On est dans une époque où on va commencer vraiment à bien rigoler. Mais pour le reste, il est évident que je vois pas du tout de raisons pour lesquelles on n'aurait pas le droit, par exemple, de dire qu'on est partisan de l'élection de Jean-Marie Le Pen à la présidence de la République, puisqu'il a le droit d'être candidat, on a quand même le droit de dire qu'on est pour lui.
Je crois qu'il a été nommé au niveau du respect de l'équilibre. Donc déjà, c'est pas tout à fait ça, mais l'équilibre entre les partis politiques, justement, au moment des élections. Je crois que c'est la mission qui lui est donnée.
Mais qu'est-ce qu'il représente comme parti ?
Mais non, justement, il y a une certaine neutralité. Mais la réponse sur sa nomination, elle a été donnée. C'est, à mon avis, c'est pas spécialement de lutter contre l'extrême droite. C'est sa nomination, c'est Azouz Begag qui a donné tout à l'heure la réponse. Il a dit, il a été nommé parce que c'est extraordinaire. En plus, il s'appelle Arabe. Donc voilà, c'est un geste symbolique qui est fait en direction de certaines communautés, et puis point.
Oui, mais c'est bien ce que je voulais dire au début, c'est-à-dire c'est la communautarisation. Tout ça n'a aucun sens. Ou on est français, on n'est pas français. Comme moi, je suis français à moitié russe, Goffman aussi. On n'est pas au CSA. Pourquoi ? Pourtant, il y a beaucoup de Français d'origine russe en France.
Moi, je suis moitié espagnol.
Pourquoi je suis pas au CSA ?
Oui, mais ils brûlent pas de voiture. Ils brûlent pas de voiture.
Et Bruno est grec. Et non, la Victoria, elle est française de France.
Ça veut dire quoi,
Michel ? Non,
il me semblait qu'elle était un peu.
Ça veut dire quoi, Victoria en français ?
Mais c'est pas mon nom, alors
son nom.
Tranquille.
C'est son.
D'abord, il faut pas dire Victoria, on en parlait en français.
Si Rachid Arabe est au CSA pour établir l'équilibre dans les médias, il a du pain ou du couscous sur la planche, parce que 82% des Français, comme quoi ils ne sont pas toujours dupes, dans un sondage il y a une semaine, constataient et se plaignaient du fait que les gros médias leur vendent, leur imposent plus exactement le Janus mondialiste Sarko-Sego qui ramasse 60% du temps d'antenne quand M. Le Pen, avec 18% des voix, en a 3%, ce qui est totalitaire.
Oui, mais je ne partage pas du tout cette analyse, parce que je trouve qu'on n'en a pas encore assez du Sego-Sarko. il en faudrait trois fois plus. Il faudrait 120% de Ségo Sarko. Il devrait participer à la Gay Pride, il devrait être à l'émission le truc Académie, là. Mais il devrait être partout dans les émissions porno de la nuit, dans les publicités, le Téléthon, tout le temps.
Ils sont dans le Libre Journal, c'est déjà pas mal.
Ils sont dans le Libre Journal. Et comme ça, je suis à peu près convaincu que d'ici le 26 avril, les Français commenceraient à dire, écoutez, alors vraiment, on en a marre, voilà. Et donc, il n'est pas du tout question de voter pour eux. Tandis que là, 60%, ça reste encore 40%, ça laisse encore 40% de marge. C'est pas assez, il en faut plus. Merci Bruno Maigret d'être...
Je suis encore plus petit. Alors une auditrice nous dit qu'elle est ravie que M. Maigret revienne, que cela prouve sa grande intelligence de cœur. Voilà.
Merci.
Un auditeur est enchanté de la réconciliation. Mais pour être précis, je crois savoir qu'actuellement, il n'existe aucune signature de maire pour quelque candidat que ce soit. Il n'y a que des promesses.
Ah oui, c'est tout à fait exact, bien sûr, puisqu'après, il faut que les maires signent les formulaires officiels.
Là, vous avez déjà, je crois, en partie répondu. Quelle est, M. Maigret, votre opinion sur M. Philippe de Villiers concernant sa non-adhésion à l'Union patriotique?
Oui, j'ai répondu. Moi, ce que je voudrais rajouter, c'est que on peut comprendre aujourd'hui qu'il n'ait pas répondu spontanément oui lorsque cette idée d'union des patriotes avait été lancée. Elle était purement verbale, elle a mis du temps à se concrétiser. Il pouvait penser que c'était quelque chose qui ne verrait pas le jour, que c'était une formule en l'air ou une manœuvre médiatique. Maintenant, c'est tout à fait différent. Cette union, elle est concrétisée, elle existe, elle doit se développer, mais c'est une réalité et c'est la raison pour laquelle il doit reconsidérer sa position. Et je crois qu'aujourd'hui, sa candidature n'a pas vraiment de sens. D'ailleurs, on le voit bien dans les sondages, elle ne rassemble pas beaucoup d'intentions de vote. C'est une candidature qui, s'il la maintient, va apparaître de plus en plus marginale, voire de plus en plus personnelle. Et je pense que ça serait bien préférable pour la France, hein, d'abord, et puis pour lui, qu'il rejoigne cette union des patriotes.
Et êtes-vous au courant que le remboursement des frais de campagne se fera seulement si les papiers, bulletins de vote, etc., seront faits avec du papier recyclable?
Très intéressant. Bon, ça, c'est la meilleure question de l'année. Vous êtes au courant, mon ami?
De toute façon, pour les élections présidentielles, c'est l'État qui les imprime. Donc, c'est un problème qui le regarde.
Voilà. Merci, Bruno. À bientôt.
Merci à vous.
On reviendra nous voir d'ici là. Quand
avec
il
plaisir.
Il faudra arriver à nous convaincre de voter Le Pen.
Bah, écoutez, on va essayer. On va tout faire. On va tout faire pour, en tout cas, car notre campagne va prendre toute son ampleur.
Merci. On écoute un tout petit bout de musique, peut-être. C'est pour le père Argouache qui va prendre la parole. Mais avant, je voudrais donner la parole aux auditeurs encore, parce qu'il y avait des questions.
Oui, il y avait des questions sur votre position. Voilà, votre explication n'est pas digne de la radio. Et profiter de votre position pour continuer de frapper quelqu'un à terre n'est guère élégant. Tout cela est très triste.
Alors d'abord, je réponds à ça. Je vois pas en quoi c'est pas digne de la radio. D'autre part, je ne frappe pas quelqu'un à terre. Je profite pas de ma position. J'ai aucune position. J'ai mon émission. Point à la ligue. Ça me suffit largement. Et je ne frappe pas quelqu'un à terre. Je réponds à des questions qui sont posées par les auditeurs, et je signale que si ces gens sont à terre, c'est parce qu'ils l'ont bien cherché d'une part, et d'autre part, même à terre, ils continuent à calomnier, à instrumenter, et à comploter, à jouer les conjurés et tout. Il faudrait arrêter, parce que c'est la survie de la radio qui est en jeu à cause de leur petite combine, et il faudrait arrêter ça, c'est tout, voilà ce que je voulais dire.
Monsieur Serge de Becquetch compare Radio Courtoisie à une maison de campagne. À quel titre Serge de Becquetch se sent-il propriétaire de cette maison de campagne pour en chasser certains de ses invités?
Alors d'abord, je ne suis pas propriétaire, d'autre part, je ne chasse personne. C'est le conseil d'administration qui a pris la décision. Mais si quelqu'un mérite d'être considéré non pas comme copropriétaire, mais comme le plus ancien occupant de cette radio depuis la mort de Jean Ferré, c'est moi. Parce que je voudrais quand même rappeler une fois pour toutes que c'est Jean Ferré et moi qui avons fondé Radio Courtoisie. Il faudrait pas l'oublier sous prétexte que je m'en vante pas à longueur de journée. Donc j'ai quand même mon mot à dire. Et quand je vois des gens qui essayent de détruire ce que nous avons construit il y a 20 ans, j'ai quand même le droit d'être un petit peu en pétard. Et voilà, mais cela dit, je n'exclus personne. Le conseil d'administration s'est occupé de reprendre à ces gens les tranches horaires qui leur étaient accordées, et ça s'appelle ça quelqu'un qui est révocable ad nutum. Vous prenez un dictionnaire de français latin ou un dictionnaire quelconque, les pages roses, vous verrez ce que ça veut dire.
Réponse à Serge de Becquetch, c'est un hypocrite.
Oui, ça même me définit. Ça me définit assez. Oui, c'est un monsieur.
C'est
comment
tout
il s'appelle
vous, ça.
Alain Volcker. Non mais il signe au moins, lui, ses injures, c'est agréable, les gens qui signent, moi je préfère ça. Hypocrite, c'est effectivement quelque chose qui me définit assez bien. C'est toute ma vie en témoigne, on peut dire, je suis d'une terrible hypocrisie.
Et ajoutons que vos propos sur Pichon et Reichmann sont dignes d'un homme politique de gauche, indigne de Radio Courtoisie.
Mais j'ai pas parlé de Pichon et Reichmann. J'ai cité leur nom, moi.
Non, j'ai pas entendu, mais enfin, il y en a.
J'ai parlé des gens qu'on invite chez soi et qui veulent refaire les peintures et participer à la gestion du budget national familial. Ça n'a rien à voir, c'est pas d'eux, je pense.
Je sais pas si vous voulez, je lis celui-là qui disent un peu la même chose.
Si, parce que j'ai demandé que Victoria lise quelque chose, parce que vous allez voir le genre de message qu'on reçoit. Anonyme, bien entendu.
Personne exclu, tu te fous de notre gueule, pardon. Tu as fait virer Reichmann, puis Pichon. À qui le tour? Peut-être le tien, quand le républicain Lesquin te virera. On verra bien, ce que vous me faites lire, on verra bien si ton lèche-cul te préservera. Ce qui serait intéressant, ce serait de nous raconter les raisons sordides qui sont derrière tout cela. Une émission passionnante qui ferait péter l'audimat. Le soutien, je ne sais pas si ça vous concerne plus, là.
Quoi? Ah non, là, ça concerne autre chose. Ça concerne Maigret.
Voilà,
et si je veux bien lire les insultes qui me sont adressées, je ne peux pas me permettre de lire celles qui sont adressées à Maigret.
Je regrette
que ce soit anonyme. Vous voyez, quand on a le courage d'écrire des trucs comme ça, il faut au moins avoir le courage de le signer.
Tout à fait à la machine.
Fiotte et Lopette. Voilà, c'est tout.
Ben pour ça, c'est tout.
Il n'y a plus d'injures.
Non, il n'y a plus d'injures.
Enfin, il
y avait.
Finalement. Vous n'allez pas lire des compliments, quand même.
Vous aviez. Mais il n'y a pas de compliments.
Il
n'y
a pas de compliments.
Mais il y avait des retours en arrière sur l'abbé Pierre, des commentaires simplement. Vous voulez que je les lise pour faire plaisir aux auditeurs?
Non, on n'a pas le temps. Il faut que je donne la parole au père. Bonsoir, Père Arouage.
Bonsoir, Serge.
Ça va?
Ça va très bien. Quand je suis ici, ça va très bien.
Alors, il faut quand même qu'on annonce quelque chose. Vous nous préparez une surprise formidable. Riomont, Passion et Résurrection. Un livre de 250 pages. Je l'ai lu. J'ai lu le manuscrit. Je peux vous dire que c'est pas rien. Hein. C'est passionnant. C'est vrai, il est bien écrit. Hein.
Oui, mais en parlant, Serge, en fait, c'est...
L'édito, non?
C'est comme...
Non, j'ai pas fait de préface. Non.
Puisque j'en parle avec vous, il y a des choses complètement enfouies qui reviennent à la surface. Et c'est incroyable parce que moi, j'ai quand même éduqué des centaines et des centaines d'enfants. Et en parlant avec vous, j'ai les visages de ces enfants qui me reviennent. Maintenant, ce sont des hommes, mais c'est des visages de 15, 16 ans, 17 ans, 18 ans, 20 ans. Ils ont maintenant 40, 50 ans, certains même ont presque mon âge, parce que je suis arrivé, j'avais 21 ans, et la majorité était à 21 ans. Mais c'est fabuleux parce que je suis très ému, au fond, de faire ce livre, parce qu'au fur et à mesure, je reviens en arrière, Et en fait, je me dis, mais est-ce que tu es resté un exemple? Et je me pose des questions sur ma vie en me disant, mais est-ce que tout ce que tu as fait avec enthousiasme quand tu étais plus jeune, est-ce que tu le referais maintenant?
Bon, ben, ceux qui vous ont vu grimper sur la statue de la République dimanche, il doit falloir avoir beaucoup de doutes là-dessus quand même.
Ce qui n'est pas évident d'ailleurs de monter sur la statue de la République.
Crois, moi, je ne l'aurais pas fait à votre place. Mais oui, ce qui est intéressant, c'est quand on parle de ce bouquin, parce qu'on en a beaucoup parlé, il y a une espèce d'émergence, d'insurrection presque des souvenirs. Et vous dites un mot et puis on voit dans le bouquin, ça sort. Alors c'est des histoires absolument passionnantes. Hein. Il y a vraiment des anecdotes qui sont incroyables. Il y a un chapitre notamment sur les incendies qui relève du roman fantastique.
Oui, absolument, oui, hein? C'est vrai. Ça s'appelle À travers le feu.
Ouais.
Et leur m'est revenue une image, quand j'étais chef scout, je m'élançais de très très loin, et c'était au moment où on chantait « Elle descend de la montagne à cheval », c'était mon numéro de cirque, et je partais en vol plongé, les bras
en croix,
en criant « Victoire, Victoria !» Et je passais à travers le feu, mais c'était des feux qui étaient très importants, qui faisaient plus de 3 mètres
donc
de
haut. Vous étiez déjà bien atteint.
Et au fond, je me suis dit, au fond, j'en suis sorti, je vais pas brûler, et le chapitre, c'est un peu comme À travers le feu.
Aussi un chapitre presque de pamphlet, qui est carrément un pamphlet sur les persécutions dont vous avez été l'objet. On voit à quel point, mais il y a des choses incroyables quand même. Quand vous pensez qu'il y a des administrations qui ont fait survoler le village de Riaumont par des hélicoptères pour prendre des photos, pour essayer de les prendre en faute, enfin, c'est une véritable aventure. Hein.
Oui, c'est vrai, on verrait ça dans une bande dessinée avec Tintin, etc. On voit des avions, espions, etc. Ouais. Et ben pour Riaumont, c'est un petit peu la même chose.
Alors ils font l'enquête.
On a pris le numéro de l'avion, ouais. Nous sommes allés à l'aéroport, et on a vu que c'était le Trésor public qui avait loué l'avion.
Vous n'avez pas vu de drone encore, parce qu'on en envoie au-dessus du 9-3, comme c'est au-dessus d'un territoire en guerre, il n'y en a pas au-dessus de Riaumont?
Ah,
oui, ils vont trop vite, vous voyez pas.
Parce que nous, on est plutôt en train de regarder, on regarde le ciel, hein, puisqu'on a les pieds sur terre et on a la tête dans le ciel. Ben, on travaille pour construire l'église, donc construire en regardant le ciel tout le temps, on peut pas.
Il y a encore autre chose qui est amusant, qui est intéressant, c'est de voir à quel point vous avez, je sais pas si on peut dire sauver les hommes, mais vous avez sauvé des enfants, parce que je lis des anecdotes dans le bouquin. Hein. Sur tel enfant, je dis, mais dites donc, celui-là, il était vraiment mal barré. Et le père m'a dit, oui, maintenant, il est éducateur pour la jeunesse. Et alors, on voit que c'était vraiment des durs de durs. Enfin, oui. C'est incroyable, il y a des gars qui, vous avez hérité de gosses qui étaient pire que des voyous, qui étaient des malfaiteurs.
Mais à la fin, on nous envoyait des enfants qui normalement auraient dû être en prison.
En prison, ouais.
Et on a su par des assistantes sociales qu'ils ont voulu complètement déstabiliser la maison et qu'ils ont voulu faire un gros coup avec ces enfants en mettant à haute dose, en disant ils vont jamais s'en tirer.
Eh ben c'est drôle.
Et en fait, c'était, je l'évoque le songe de Don Bosco quand il voit ses loups qui deviennent des agneaux et le père revêt malgré tout. Arriver à trouver leur cœur. En fait. Et ça, c'était très 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 beau, ce père Revé qui avait quand même des exigences très très fortes, hein, puisqu'il exerçait une autorité paternelle forte. Et d'ailleurs, les juges pour enfants disaient dans les placements du ministère de la Justice, hein, sur les dossiers, ça revient, il a besoin d'une autorité paternelle forte et de beaucoup d'affection. Nous le plaçons au village d'enfants de Riaumont.
Alors ça aussi, c'est un aspect du bouquin qui est passionnant. Parce que finalement, Riaumont, aujourd'hui, Riaumont, c'est vous. C'est-à-dire les gens qui connaissent le village, qui en ont entendu parler.
Oui, c'est quand même aussi le père Alain, le père prieur.
Oui, mais c'est vous parce que vous êtes tout le temps... Lui, il est là-bas, il s'occupe de la maison, tandis que, enfin, il s'occupe de la Sainte-Croix. Mais vous êtes dans toutes les réunions, vous vous promenez beaucoup, vous voyez les gens, etc. Donc, il y a une espèce d'identification qui se fait. Et ce qui est touchant dans le livre, quand on lit, c'est que, d'une part, on voit que vous êtes totalement habité par la mémoire du fondateur et par son exemple et par son, vous êtes inspiré par lui complètement et on le découvre. Alors c'est un personnage incroyable, père Revet. Moi je le connaissais pas du tout, hein. J'avais vu 2-3 photos, 2-3 dessins, mais quand on voit sa vie, c'est invraisemblable. Il prenait sa moto et il foutait le camp au pôle Nord carrément, quoi. Enfin des trucs de fou furieux. Enfin, la première histoire, c'est quand même incroyable. Il est dans une réunion de prêtres et les prêtres disent c'est comme ça que Créon a commencé, on peut le raconter.
Oui, absolument, allez-y, je vous raconterai.
Il y a des prêtres qui sont réunis comme ça un soir et puis il y en a un qui dit il y a un gosse, on ne sait pas quoi en faire, on ne sait pas où. Il a plus, ses parents n'en veulent pas parce que le père est remarié avec une femme qui n'en veut pas, etc. Donc il est à la rue, on ne sait pas quoi en faire. Et il n'y a pas quelqu'un qui pourrait faire quelque chose, et le père revient, dit, ben je vais le prendre. Comme ça.
D'ailleurs, il y a quand même eu une minute de silence.
Ouais, il y a une grande minute de silence.
Parce que prendre un enfant, il faut l'élever, il faut lui faire suivre ses études, il faut s'en occuper jour et nuit. Hein, c'est pas prendre un enfant en externat. C'est prendre complètement. Alors, au bout d'une minute, il a levé la main et il m'a dit, c'est là qu'a commencé Rion. Le jour où j'ai levé la main, j'ai répondu toujours prêt. C'était le début de l'aventure et le bon Dieu m'attendait là.
Alors, il avait ramassé un vieux hamac dans un bunker sur les bords de la mer du Nord. Il a couché le gamin dans un hamac et il a accroché le hamac dans une cabane de mineurs en bois.
Juste après la guerre. Hein.
Oui, c'est ça.
Ça passe en 55.
Oui, c'est ça, 10 ans après la guerre. Oui.
Mais c'était les premières maisons d'enfants. Il n'y avait pratiquement pas de maison d'éducation. Et on retrouve partout en France, comme fondateur, des prêtres comme lui, des religieuses ou des chefs scouts.
Et quand on voit ce qu'est Riomont aujourd'hui, parce que vous connaissez Jean-Pierre, vous y êtes allé.
Oui, j'ai eu le plaisir d'aller.
C'est quand même un endroit incroyable, c'est un village. Sur une colline, un village médiéval avec une espèce de château, avec des maisons en pierre. Et on se dit tout ça, ça a commencé par un gosse dans un hamac, dans une cabane en bois, gardée par un curé qui avait probablement autre chose à faire aussi quand même. Il avait son sacerdoce, il avait sa vie. C'est une histoire bouleversante et passionnante.
Au fond, il faut y aller pour voir. Tout à l'heure, il y a un huissier qui est arrivé, pas pour moi, heureusement, mais pour quelqu'un qu'on avait hébergé, parce qu'on a hébergé aussi des gens qui sont dans le malheur. Je m'appelle pas l'abbé Pierre, mais enfin, il y a aussi beaucoup de gens autres que l'abbé Pierre qui ont recueilli un certain nombre de personnes, d'adultes. Et alors, je lui ai expliqué, parce qu'il était là en admiration, parce qu'il a eu un coup en voyant ce village, puis il voyait des enfants qui portaient des barres de fer. J'ai dit, oui, celui qui est là-bas, là, le noir, là, c'est un très gros délinquant. Regardez comment. Alors, je montrais chaque enfant, je racontais l'histoire de chaque enfant qui était là. Et il était dans l'émerveillement. Et j'ai commencé à lui raconter l'histoire de Riomont et surtout ce qui se passe dans notre pauvre pays. Et alors, il m'a dit, mais oui, vous avez absolument raison. Et j'ai pourtant dit des choses qui étaient quand même assez choc, hein, sur le pays qui va mal et qui tombe dans un ravin actuellement, entièrement. Et alors, il m'a dit, mais à la fin, il est parti transformé de cette visite à Riomont. Et je me dis toujours, c'est l'impact de la visite, parce qu'on a des gens qui ont voulu se suicider, et je le raconte dans un autre chapitre, et ce monsieur, m'a parlé, et il m'a dit, voyez-vous, je suis venu ici, et c'est les oiseaux, c'est la paix, c'est pas dit la grâce de Dieu, mais il y avait quelque chose sur le site qui l'a empêché de se suicider. Et il m'a pas raconté pourquoi il voulait se suicider, mais il est parti en sanglotant, les larmes aux yeux. Et le site a quelque chose d'assez exceptionnel.
Oui, oui.
Et pourquoi ce prêtre marchait toujours dans ce village. Et quand il préparait un sermon, il ne préparait pas, il n'était pas assis. Et je voyais, quand il voulait parler, parce qu'il a fait des conférences aussi assez chocs, il en a fait une à Versailles pour défendre Riomont, il en a fait un petit peu partout, au moment où on était attaqué, et alors il se promenait et il faisait les allées de long en large, et il ruminait. Il ruminait et son sermon. Et après, il sortait son sermon, avec une culture extraordinaire, parce qu'il connaissait le grec, c'était un classique, etc. C'est un historien en même temps, mais aussi un soldat, par certains côtés. Et donc, il y avait quelque chose de fabuleux, c'est qu'il nous emmenait très très haut, et en même temps, c'était toujours très concret. Il y avait toujours des histoires de gosses, et c'est comme ça que je l'ai connu au congrès de Lausanne, à travers les histoires d'enfants.
Alors, l'histoire du congrès de Lausanne, on n'a pas le temps, mais ben, il faut lire ce bouquin, c'est passionnant, c'est vraiment... Alors, ça s'appelle « Riomont, passion et résurrection ». Vous avez encore la possibilité de le réserver en souscription pour 30 euros, plus 5 euros de port. Il y a 16 pages de photos, quand même, et il est beau, hein, ça va être un bel objet. Et donc, je le dis aux auditeurs que s'ils veulent le commander... Il faut qu'ils envoient donc 35 euros pour compris à l'association La Porterie, boîte postale 28 62801, Liévin, CEDEX France. Association La Porterie, boîte postale 28, 62801, Liévin, CEDEX France. Et vous allez recevoir un bouquin. Je vous garantis que ça va vous émouvoir. Vous allez le recevoir pas tout de suite parce qu'il faut l'imprimer.
Oui, parce que certains qui ont fait la souscription téléphonent. Ouais. Et ça fait deux mois que j'ai souscrit, j'ai pas le livre. Il faut dire qu'il paraîtra vers Pâques, sans doute.
C'est long, un grand bouquin à faire comme ça. Et
surtout que Serge, vous m'aidez quand même à éclaircir mes idées. Hein, vous m'aidez beaucoup. Et ça, j'avais besoin de quelqu'un.
À l'impossible, il n'est plus. Merci, mon père. À bientôt.
Merci.
Bon, puis si on veut vous aider, on peut regarder le site. Comment il s'appelle votre site? Je ne me souviens jamais.
Riomont.net.
Voilà, merci, voilà. Monsieur Patrick Goffman.
J'aurais voulu juste faire les annonces de mes fêtes scouts, mais je reviendrai pour en parler.
Allez-y vite, faites.
Donc, Riomont a été exclu de l'anniversaire du scoutisme.
Bonne vieille fraternité.
Voilà,
scout.
La fraternité scout. Nous sommes exclus des fêtes nationales. Donc nous allons faire nos fêtes nationales, nos propres fêtes nationales, où tout le monde pourra venir à Villepreux. Le dimanche 29 avril, grâce à Monsieur de Saint-Seine, qui nous a réservé cette journée. Et puis, la veille, si ça sera entre les deux tours, si on peut, on va défiler sur les Champs-Élysées. Et puis, la deuxième fête, alors ça sera fabuleux, puisque il y aura énormément de scouts, dont les Europa Scouts et les Scouts Saint-Louis, qui sont eux aussi écartés des fêtes. Le 23 juillet, le lundi 23 juillet, au Guerver-le-Christ, petit village breton. Et je crois qu'il y aura beaucoup de monde qui viendra. Et si Dieu veut, Monseigneur Centaine nous célébrera la messe tridentine. Ce sera un très grand moment. Voilà.
Merci, mon père. À bientôt. Vous reviendrez nous voir.
Merci, Serge.
Est-ce qu'il nous reste une minute, Franck? Deux minutes. Est-ce que vous pouvez parler du Libre Journal en deux minutes?
Merci, Serge. J'en serais très heureux parce que je crois, une fois de plus, que c'est un très bon numéro, le numéro 397. Vous hésitiez à me donner la parole parce qu'il date du 20 janvier. Vous êtes un peu coquet parce que je pense pas que depuis trois jours, la double page, par exemple, titrée « Les stratèges de l'Élysée voient Le Pen en tête au premier tour », soit vraiment défraîchie. D'ailleurs, moi, je suis très flatté parce que ça fait quelques semaines que je prêche ce pronostic. Mon voisin Jean-Pierre Rondeau nous donne un excellent article sur la SCI de Ségolène et Hollande. Alors ça, c'est quand même un monde parce que une fois de plus, les abonnés du Libre Journal, la SCI, la sapinière de Ségolène et de Hollande, ils en savent tout depuis trois mois. Un député UMP ressort cette histoire en la sortissant de considérations absurdes comme quoi une SCI vous permet d'être exempt de l'impôt sur la fortune, ce qui est quand même ce qui serait une bonne nouvelle si elle était vraie. Et là, tous les médias reprennent. Chirac lui-même, d'après le Canard enchaîné d'aujourd'hui, confirme que cette propagande stupide et ces calomnies imbéciles, comme dit Jean-Pierre Rondeau, viennent du côté de Sarkozy. Pour le 20 janvier, le 21 janvier, l'anniversaire de la mort de Louis XVI, on a eu deux très bons articles historique. Et puis, ça s'imposait un entretien avec son Altesse Royale, Sixte de Bourbon-Parme, qui nous dit comment les royalistes qui voudront bien le suivre vont voter. Et puis, bon, les chroniques assez prestigieuses de François Brignot, son journal de campagne électorale, un monument de la presse patriotique, Le Divin Marquis, l'éditorial de Serge de Bekech, donc tout ça dans le numéro 397 du Libre Journal pour 5 euros ou un carnet de timbre, l'abonnement pour un an 100 euros à SDB 4 place France 6, 75 010, Paris.
Merci, monsieur Goffman. Bonne semaine, que Dieu nous garde.
Bonsoir, chers auditeurs de Radio Courtoisie. Ravi de vous retrouver pour les chroniques de la vieille Europe, hébergées en deuxième partie du libre journal de Serge de Beketch sur Radio Courtoisie. Et puis, meilleurs vœux à vous, meilleurs vœux à notre pays et meilleurs vœux à cette Europe dont nous parlons bien souvent et dont nous espérons chaque jour qu'elle se réalise davantage. En tout cas, on va encore parler de multiples sujets qui la concernent, directement ou indirectement. Et pour ce faire, et bien comme d'habitude, l'équipe à laquelle vous êtes habitués, Grégoire Gambier, Olivier Lebrun, Patrick PL, journaliste tous trois, qui m'accompagne, Philippe Christel, votre serviteur, pour cette heure et demie que nous allons passer ensemble. Et nous allons excuser Xavier Van Lierde qui devait être des nôtres et qui est malheureusement retenu à son grand regret. Donc vous le savez, cette émission est consacrée aux nouvelles, aux informations et aux analyses sur les enjeux géopolitiques et géostratégiques qui intéressent cette vieille Europe et ses perspectives au sein d'un monde chahuté tel que nous le voyons tous les jours. Et donc nous allons parler géopolitique, nous allons parler politique, nous allons parler société, et puis nous allons commencer par la défense. Je rappelle à nos auditeurs que notre troisième demi-heure, je dis ça pour les aficionados, est toujours réservée à l'actualité culturelle de cette grande Europe sous la houlette de Patrick PL. Et donc on va commencer par la défense, puisque il s'est passé quelque chose de nouveau la semaine dernière, il y a une dizaine de jours peut-être, c'est que pour la première fois, eh bien, la Chine a réussi un tir d'un missile balistique capable de détruire un satellite. On disait, on savait, on pensait que seuls les États-Unis et la Russie étaient détenteurs de cette technologie. A priori, le club vient de s'agrandir et les détenteurs de la technologie sont trois. Est-ce qu'ils feront bon ménage et vers quoi cela nous entraîne-t-il? Quelles sont les premières questions qu'il faut se poser? Olivier Lebrun, qui est notre expert stratégique, notre expert des questions de défense, on va évidemment se tourner vers vous pour cette question. Et non, puis avec peut-être en première question, puisqu'on a vu que cet essai avait été très faiblement commenté, et est-ce qu'on est dans le domaine de la rumeur ou on est dans le domaine d'un vrai succès technique, technologique chinois?
Non, il apparaît tout d'abord après pas mal de recoupements, de non-dits et de réponses dilatoires de la part de Pékin qu'on est dans un vrai succès. Les Chinois auraient effectivement réussi à atteindre un satellite. Alors c'est un de leurs propres satellites qui avait été mis hors service, un vieux satellite météorologique qu'ils ont atteint grâce à un missile en orbite basse. Et c'est un vrai succès. Alors ça pose la question, et ça nous concerne indirectement en Europe, de l'arsenalisation de l'espace.
C'est l'arsenalisation.
Tout à fait.
Vous êtes sur Radio Courtoisie.
Oui. Alors, c'est un
néologisme.
C'est un néologisme, et je vais l'expliquer.
C'est un barbarisme, plutôt?
Si vous voulez. En tout cas, ça correspond à une réalité. Puisque la militarisation de l'espace existe depuis longtemps, on utilise l'espace à des fins donc de communication, des fins de géopositionnement. Vous connaissez tous le GPS. La différence entre la militarisation
et
le GLONASS, qui est le système russe, la militarisation de l'espace, c'est l'utilisation de l'espace de manière passive, si on peut dire. L'arsenalisation, c'est l'utilisation active d'armes placées dans l'espace de manière offensive. Et donc on est là dans une logique d'arsenalisation, proprement dite, de l'espace. La Chine, avec ce tir de missile, menace directement les États-Unis. Pourquoi? D'abord parce que c'est un tir qui concerne un satellite situé en orbite basse, c'est-à-dire une altitude de plusieurs centaines de kilomètres. Il s'agit là d'à peu près 800 kilomètres. Cette orbite basse convient à quoi? D'abord aux satellites d'observation et de surveillance qui sont extrêmement importants pour les Américains en particulier. Ce qu'on appelle les satellites espions, en particulier toute l'imagerie optique est située à cette altitude. Qu'est-ce que veut démontrer Pékin avec ce tir? C'est d'abord une aptitude à se défendre et à attaquer dans l'espace, ce qui est nouveau. Ce message est envoyé en priorité aux États-Unis. Depuis des années de concert avec Moscou, en particulier, les Chinois protestent de manière extrêmement régulière contre les programmes américains d'arsenalisation de l'espace. Washington possède, vous le savez, on l'a rappelé, nous l'avions commenté sur cette antenne, des projets, certains ouverts, certains beaucoup plus secrets, qui concernent des armes anti-satellites, qui sont basées sur la technologie du laser, des satellites tueurs, et qui donnent à Washington à peu près 15 ans d'avance sur tous ses concurrents. On peut également porter au crédit de cet équipement, donc, et de cette arsenalisation américaine de l'espace, toutes les sommes énormes qui sont consacrées à la défense antimissile et qui participent de cet investissement dans ce que les Américains considèrent comme, hein, je cite les documents de l'US Air Force, donc de l'armée de l'air américaine, comme leur nouvelle frontière stratégique. Cette armée de l'air américaine, c'est elle qui s'occupe, à qui est confiée la charge de tous les programmes militaires spatiaux. Et depuis des années, dans ces documents de doctrine officielle, elle utilise un vocable très particulier, qui est celui de suprématie spatiale américaine. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie deux choses pour les Américains. Bien sûr, utiliser l'espace à des fins militaires, mais aussi, la suprématie spatiale, c'est dénier l'utilisation de l'espace à ses adversaires potentiels. Ses adversaires potentiels, il y en a un dont on parle dans cette émission de manière régulière, c'était bien sûr la Russie. La Russie qui, dans le domaine de la défense, a subi une sorte de passage à vide pendant 10 ans, en particulier sur ses programmes spatiaux. Mais l'adversaire potentiel aujourd'hui, le concurrent global, le concurrent qui monte, le concurrent qui a consacré l'année dernière 136 milliards de dollars à la recherche et au développement, c'est la Chine. Et que redoutent les Américains avec ce tir satellite? C'est pas simplement un exploit, disons sportif, un exploit technique. C'est un message très clair adressé aux Américains, parce que les Américains savent que toute leur transformation militaire actuelle, qui est basée sur la supériorité en matière d'information, sur la mise en réseau de leurs plateformes militaires et sur les armes de précision, elle dépend de plus en plus et de plus en plus à l'avenir de l'espace.
Oui, c'est-à-dire que le scénario qui est évoqué, c'est que notamment l'ensemble des satellites de renseignement qui sont en orbite basse et qui constituent le GPS sont ceux qui permettraient, par exemple, de pouvoir donner aux Américains le délai le plus court de réaction face, par exemple, à la préparation d'une offensive chinoise sur Taïwan. Imaginons qu'en même temps que l'offensive se prépare, l'ensemble des satellites GPS soient aveuglés ou soient détruits, ou peut-être les principaux d'entre eux, et la capacité de réaction de l'armée américaine devient sérieusement obérée.
Voilà, exactement. Et de manière plus large, toute atteinte à la supériorité spatiale américaine a un impact direct et immédiat sur la supériorité militaire américaine globale. Donc cet avantage que les Américains ont sur le reste du monde en matière militaire, qui est lié à l'espace, devient également, c'est le revers de la médaille, une vulnérabilité. Et avec ce tir, donc, c'est l'avertissement chinois. Demain, la frontière du nouveau concurrent global qu'est Pékin sera aussi l'espace, ce qui remet en cause la position dominante américaine. On pourrait également commenter ce qui va se passer dans l'avenir. Hein, ce tir, c'est simplement un début. On sait que les Chinois disposent déjà d'une sorte de GPS rudimentaire, hein, qui tourne sur quelques satellites qui s'appellent Beidou. Ils disposent, et en tout cas, ils avaient développé de premières armes anti-satellites. Ils disposaient de chasseurs aériens MiG de fabrication russe, sur lesquels étaient montés donc des missiles qui avaient pour mission de monter jusqu'à une altitude extrêmement élevée pour pouvoir détruire des satellites. Aujourd'hui, on voit qu'ils sont passés à la vitesse supérieure. Et demain, qui sait, avec ces 136 milliards dépensés par an de dollars dans la recherche et développement, vont-ils investir dans le domaine du laser et peut-être le domaine des micro-ondes de forte puissance? Donc les problèmes pour les Américains et les Européens ne font que commencer. Il y a la Russie également qui développe ce type d'arme, qui revient dans la course au niveau de l'espace. Et puis derrière, il y a l'Inde, il y a le Brésil, et donc un espace qui, militairement parlant, se démocratise et qui devient de plus en plus dangereux, en tout cas pour la supériorité globale américaine.
Alors rappelons, pour donner des chiffres ou en tout cas des éléments de contenu à nos auditeurs, c'est qu'effectivement on connaissait la technologie américaine. La technologie russe, elle, est plus ancienne du fait du passage à vide que vous citiez. Encore qu'aujourd'hui, sur la planète, la seule manière de les réparer une station spatiale qui ne marche pas, c'est de prendre un vaisseau cargo russe, parce que les vaisseaux cargo américains ne fonctionnent plus. Mais enfin bon, quand même, c'est vrai qu'il y a quand même eu un passage à vide.
Oui, ce dont vous parlez, effectivement, c'est le résultat de dizaines d'années d'investissement russe dans l'espace.
Absolument.
Et cet investissement, disons, ils vivent sur ce qu'ils avaient dépensé dans ces années.
Hein, oui, le passage à vide se fera sentir probablement dans les 10 ans qui viennent que qu'aujourd'hui. Enfin, rappelons que donc le système anti-satellite russe est plutôt, lui, né dans les années 62-70 avec plusieurs cibles spatiales qui ont été abattues, mais ce système n'a pas énormément grandi. On parlait des systèmes globaux de navigation, on a parlé du GPS.
Il y a également un système concurrent qu'on connaît peu en Occident, qui est le GLONASS, mais donc qui est l'équivalent russe. Et j'en parle puisque vous le savez, ça ne vous aura pas échappé que Vladimir Poutine, le président russe, était en Inde hier et aujourd'hui, et que une des conséquences de ce voyage, c'est l'ouverture d'ores et déjà à l'Inde de l'accès au système de navigation GLONASS. Ça vient d'être annoncé avant-hier par le ministre de la Défense russe. Je rappelle, puisqu'on en a parlé également beaucoup, le système Galiléo, alors qu'il va nous paraître un petit peu à des années-lumière, c'est le cas de le dire, de tout ce qu'on dit, et qui est un système purement civil. Rappelons que Galiléo a pour vocation d'en finir avec la suprématie technique du GPS, et que Galiléo a été ouvert largement aux capitaux et aux participations, en tout cas chinoises et indiennes, mais pour des raisons exclusivement civiles. Et on sait très bien que toute la difficulté de Galiléo, on reviendra pas là-dessus parce qu'on l'a déjà dit, c'est justement son côté timoré sur l'efficacité militaire et le fait que ce n'est qu'un système civil. Et donc, question qu'on a envie de vous poser, Olivier Lebrun, peut-être double question. Premièrement, est-ce que les 15 ans d'avance américaine qui viennent d'être un petit peu rattrapés par les Chinois, qu'est-ce qui reste comme avance, et est-ce que cette avance continue à avoir du sens maintenant que les satellites en orbite basse peuvent être atteints par les Chinois? Première question. Et deuxièmement, est-ce que tout ça ne va pas, par contre-coup, redonner de la puissance ou redonner de la signification à des armes plus conventionnelles, puisque demain toutes les armes purement technologiques peuvent être aveugles en trois coups de laser ou en trois coups de missile?
A priori, il faut retenir un chiffre pour répondre à votre question, c'est 500 milliards de dollars, c'est le montant du budget annuel de la défense aux États-Unis. Sur ces 500 milliards de dollars, vous en avez une bonne part qui est consacrée à la recherche et au développement. Cette recherche et ce développement américain, ils sont disséminés dans un certain nombre de programmes, mais ils sont coordonnés de manière extrêmement efficace. Et c'est 10, 15 ans d'avance que les Américains possèdent dans ce domaine, cette nouvelle frontière stratégique, technologique, cette espèce de moteur d'innovation qu'est l'espace, n'est pas prêt de disparaître. On peut penser que les Américains vont accélérer leur programme pour faire face aux nouveaux progrès des Chinois et demain des Russes et des Indiens. Je ne pense pas que donc les Américains restent l'arme au pied. Ils ont largement les moyens de réagir. Et je crois qu'on va assister dans les 10 ans qui viennent à une course effrénée des Américains vers la réalisation peut-être accélérée par rapport au calendrier auquel ils avaient pensé en premier lieu, de cette suprématie spatiale globale qui, chez eux, vise à dénier l'accès à l'espace à leurs adversaires. Donc ils ont véritablement un levier avec ce budget.
Et qui a déjà fait ses preuves, puisqu'on se rappelle quand même que c'est en tout cas un des leviers forts, c'est la logique d'investissement dans ce qu'on a appelé la guerre des étoiles, qui aurait précipité le chaos du match USA-Union soviétique. Et qu'on peut imaginer qu'un des débuts du chaos, de l'effondrement du système soviétique, a été l'obligation par Moscou de reconnaître qu'il ne pouvait pas suivre sur le jeu de poker, mais aussi d'investissement du système de guerre des étoiles. En gros, est-ce que on n'assiste pas, parce qu'en France et en Europe occidentale, l'opinion est très très guidée par les problématiques essentiellement iraniennes ou nord-coréennes de dotation d'un système d'un outil nucléaire militaire. On assiste en fait à une remilitarisation croissante à peu près urbi et orbi sur la planète, sauf peut-être dans les pays d'Europe occidentale, mais ce mouvement de remilitarisation est en pleine expansion. On aurait pu parler du Japon, pour des raisons notamment qu'on vient de parler. Quelle perspective ou quel chiffre ou quelle tendance on pourrait donner sur ce qu'on observe de la remilitarisation croissante sur l'ensemble de la planète?
L'arsenalisation de la planète, peut-être.
L'arsenalisation, c'est l'espace. Grégoire Gambier, vous n'avez pas écouté. Mais je sais pourquoi vous n'écoutez pas, parce que vous préparez votre prochain sujet.
Oui,
il va être bon.
Il faut bien cadrer les néologismes et les appliquer dans les domaines précis. Mais il suffit de regarder quelques réalités qui sont par exemple la progression du marché des exportations de défense de manière globale. On voit une envolée des ventes et on voit des pays qui arrivent aujourd'hui à s'équiper de matériel extrêmement moderne, qui modernisent leur flotte, leur aviation, avions, leur armée de terre, et tout cela de manière extrêmement cohérente. Ils n'achètent plus des produits et des plateformes, des chars, des avions, des bateaux pour obtenir un statut, mais effectivement pour s'en servir de manière effective, de manière efficace. Il suffit de regarder par exemple la façon dont Pékin, de manière très logique, met sur place une flotte de haute mer qui est basée sur aujourd'hui des ventes russes, des sous-marins de classe Kilo, les frégates Sovremeny, pour s'apercevoir qu'il y a effectivement, comme vous le dites, une militarisation croissante.
Et un porte-avions.
Et un porte-avions.
On parle d'un porte-avions chinois.
Pékin veut développer une flotte de haute mer. Pourquoi ? Pour protéger ses voies d'accès en hydrocarbures, en matières premières, qui servent donc effectivement à nourrir sa croissance à deux chiffres qu'on connaît depuis des années et qui est son premier objectif stratégique. Donc effectivement, il y a une militarisation croissante et un accès de plus en plus facile à des armes de haute technologie. On parle toujours de la menace balistique. On se focalise sur l'Iran, on se focalise sur la Corée du Nord. Mais demain, le vrai danger, quel est-il ? C'est l'accès dans certains de ces pays à des missiles, simplement de croisière, mais extrêmement précis. Si demain vous avez un missile, vous avez accès, comme en tant que groupe terroriste ou État effondré, à un missile de croisière précis, vous ferez beaucoup plus de dégâts qu'avec un missile balistique dont on peut observer le départ, qu'on peut intercepter éventuellement. Donc on va véritablement vers une envolée technique, une progression technique des matériels militaires mis à disposition d'États dont on ne contrôle pas toujours ni les objectifs, ni les fins.
Peut-être dernière question pour clore le chapitre de la défense. D'abord une information, et on parlait de l'Iran. Le bras de fer continue entre les Américains et le reste du monde sur la position à tenir face à l'Iran. Et la dernière nouvelle étant la confirmation par la Russie de la livraison de 29 systèmes d'armes, donc des missiles solaires réservés à l'Iran à usage bien évidemment strictement défensif, pour abattre efficacement tout missile de haute précision, et ceci en prévision de quelques agitations militaires que ce soit. Donc le bras de fer continue, la coopération technico-militaire russe et iranienne n'est pas prête de s'arrêter. Autre élément, et alors c'est tout neuf, c'est cette semaine, c'était l'information qui nous disait que les États-Unis venaient de sélectionner un certain nombre d'emplacements en République tchèque pour installer un nouveau système de radar. Donc là aussi, l'OTAN avance ses pions en Europe orientale. De quel type de technologie s'agit-il ? Enfin, dans quel dispositif ce type de radar s'inscrit-il ?
Mais c'est ce dont nous parlions il y a quelques instants. C'est tout simplement une extension du système global de défense antimissile américain. Vous savez qu'un système de défense antimissile, il est basé sur quoi ? D'abord sur l'alerte. C'est-à-dire quand un missile balistique part d'un pays avec des intentions hostiles, donc pour frapper sur votre territoire, vous avez besoin premièrement d'un système d'alerte avancée qui vous dit quelques secondes après le départ du missile que ce missile est effectivement parti. Vous avez ensuite besoin d'un système de suivi du missile, de sa trajectoire, de calcul de sa trajectoire, et puis d'un système de destruction du missile avant qu'il n'atteigne sa cible. Eh bien, ces radars qui se mettent en place aujourd'hui en Europe de l'Est, vous avez parlé de la République tchèque, mais il faudrait également parler de la Pologne, avec qui les négociations sont très avancées du côté américain. Ces pays accueilleraient des radars tournés vers l'Est, qui sont des radars d'alerte, des radars de signalement de départ de missiles. Et ils font partie d'un système plus global de défense antimissile, dont on parle toujours, qui est le système de défense antimissile américain. Là, on parle bien d'un dispositif américain. Il y a un projet de défense antimissile dans l'OTAN, mais les différents pays membres de l'Alliance ne sont pas du tout d'accord sur son fonctionnement et sur ses fins, et en particulier la France. Je vous rappelle qu'on est toujours dans l'OTAN, et en particulier la France qui voit ce système se mettre en place progressivement et qui aimerait trouver une façon de soit y participer, soit le bloquer, mais en tout cas faire entendre sa voix sur ce sujet extrêmement important, puisque quand il sera mis en place, il sera plus temps de réfléchir sur sa valeur et sur les implications stratégiques que cette installation induit. Parce que attention, quand un système de défense antimissile est installé sur un continent, à l'échelle d'un continent, cela signifie que le système de décision a été arrêté en amont. On n'avait plus le temps de discuter entre 10 pays pour savoir si on appuie sur le bouton ou non pour arrêter le missile. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous mettez en place un système de défense antimissile au niveau d'un continent, tout a été calculé à l'avance. On sait a priori que la destruction sera enclenchée automatiquement. Vous avez quelques secondes pour réagir. Donc ça pose le problème de l'unanimité, qui décide, qui appuie sur le bouton, et on est là dans le domaine véritablement de la souveraineté politique. Donc on voit bien les implications de l'installation de systèmes de défense antimissile en Europe. C'est extrêmement lourd, extrêmement significatif.
Merci Olivier Lebrun d'avoir abordé avec autant de science et de précision ce sujet qui est toujours un petit peu ardu, et j'espère que nos auditeurs auront été satisfaits de cet apport d'expertise. On va parler un peu plus de politique après avoir parlé maintenant de stratégie et de défense, mais toujours au niveau européen et au niveau de l'Union européenne. Il y a une nouveauté en cette début d'année, Grégoire Gambier, nouveauté qui ne vous a pas échappé.
Oui, dans un tout autre domaine, mais nous restons dans le champ de la souveraineté et donc de la politique. Mais dans la série Bruit de bottes au fond des urnes, un titre du Monde qui a dû ravir un certain nombre de chroniqueurs de Radio Courtoisie, je cite, « Plus libéral et nationaliste, le Parlement européen voit l'extrême droite se renforcer ». Je ferme les guillemets. Donc c'était le 12 janvier dernier, en effet, Philippe Christel, à la suite de l'élargissement de l'Union européenne à la Roumanie et à la Bulgarie, puisque les 53 eurodéputés de ces nouveaux pays membres se sont répartis principalement dans les trois principaux groupes qui contrôlent le Parlement européen, en privilégiant d'ailleurs les libéraux, nous y reviendrons, mais ont surtout rendu possible la création d'un groupe identité, tradition, souveraineté, tout un programme, ITS, que préside donc Bruno Gollnisch. On est content pour lui, parce que l'arrivée de six élus roumains, donc de Romania Mare et Bulgare d'Ataca, permet au FN, qui siégeait chez les non-inscrits depuis de nombreuses années, d'avoir un groupe de nouveau, ce qui lui donnera donc des moyens administratifs et financiers confortables. Ce groupe donc compte 20 députés, dont les 7 élus donc du FN au talent forcément inégaux. Mais aux côtés donc de la droite populiste, on trouve également le pôle souverainiste qui se renforce lui aussi avec l'arrivée des nouveaux élus des Roumains et Bulgares, puisque le groupe de l'Union pour l'Europe des Nations, UEN, compte désormais 44 députés et passe devant celui des Verts. Soulignons aussi que 20 des membres de ce groupe UEN sont des Polonais qui appartiennent aux trois formations alliées au pouvoir à Varsovie, qui sont qualifiés facilement de populistes quand ils prennent la parole en dehors du champ du Parlement européen, mais là ils sont tout bonnement souverainistes, ce qui est déjà pas mal. L'autre groupe souverainiste, rappelons-le, Indépendance et Démocratie, comprend lui 23 élus, dont les trois eurodéputés vidéristes. Bref, ce sont 87 députés européens, bon sur 785, hein, soit 11% à peu près, qui, malgré leur extrême diversité, peuvent incarner un pôle alternatif au conformisme ambiant. Mais, petit point de détail malgré tout, c'est surtout l'alliance des libéraux et des démocrates qui profite du nouvel élargissement à l'Est, puisque le groupe donc de ces libéraux et démocrates comptera 106 députés, soit 17% de plus. Donc c'est le principal, même si c'est le groupe ITS qui a focalisé l'attention des médias en France, ce sont les libéraux qui se renforcent massivement avec l'arrivée des nouveaux pays membres d'Europe centrale et orientale, ce qui d'ailleurs corrobore le positionnement parfois en relations internationales et en géopolitique des gouvernements de ces nouveaux pays membres. Donc on peut simplement souligner aussi que les libéraux peuvent se féliciter d'avoir au sein même de la Commission deux alliés supplémentaires, donc avec une Bulgare, Meglena Kuneva, et le Roumain Leonard Orban. Les commissaires libéraux, donc au nombre de 9 maintenant, sont donc plus nombreux que les sociaux-démocrates, qui sont que 6, et tout juste moins nombreux que ceux du Parti Populaire Européen à 10. Donc la politique réelle de l'Union Européenne ne risque pas de subir d'inflexion majeure dans les mois et années à venir, mais au moins pour les gens qui votent et donc qui se rendent dans la solitude de l'isoloir, il y a des défoulements qui parfois donc apportent des petites joies. Ceci dit, la grande et la bonne nouvelle électorale du moment est plus récente et elle nous vient de Serbie, pays que nous aimons par-dessus tout, vous le savez bien, Philippe Christel. Donc les élections législatives de dimanche dernier, donc 21 janvier, ce qui était déjà tout un symbole.
Juste, pardonnez-moi,
oui,
avant qu'on passe d'un sujet à l'autre.
Les histoires électorales ne vous intéressent pas.
Qu'on puisse rebondir ou questionner sur la constitution des groupes. Donc, primo, souligner que dans le groupe ITS, on retrouve également les parlementaires flamands du Vlaams Belang, et nous avions eu la joie et le plaisir d'inaugurer les chroniques de la vieille Europe sur Radio Courtoisie avec l'un d'entre eux qui était Philippe Claes, et donc qui se retrouve désormais dans ce groupe. Deuxième sujet, on sait que les eurodéputés bulgares et roumains, de toutes obédiences, seront renouvelés prochainement. Et la question sous-jacente, c'est peut-on imaginer la reconduction de ce groupe ou dans les mêmes proportions de ce nombre de députés?
Vous savez que ce qui, pour paraphraser, on fait pas de néologisme, on paraphrase plutôt, la droite ultra, pour ne pas la qualifier parfois d'extrême droite, et en France en particulier, mais aussi en Europe, l'une des plus bêtes au monde. Vous savez que ce qui caractérise ces différentes factions politiques, malheureusement et trop souvent, c'est justement plus de la crispation, et enfin un populisme au sens étroit du terme, et une certaine crispation sur les questions strictement nationales, ce qui les empêche bien souvent, soit par caractère, soit par vision politique, d'avoir une vision à plus long terme et plus large à l'échelle européenne d'alliances politiques crédibles. Donc bien évidemment, ce que vous dites, mais c'est toujours remis en question. Qui connaît le score, par exemple, du FN en France aux prochaines élections européennes? Auront-ils des députés européens? On ne le sait pas. On ne le sait pas tout à fait. Ce qui était important dans ce petit focus sur le groupe identité, tradition et souveraineté, c'était un peu de rappeler la force relative mais toujours prégnante d'un courant identitaire dans la plupart des pays européens, et donc on ne peut souhaiter, nous en tout cas aux Chroniques de la vieille Europe, que cela se structure davantage et sur le long terme, mais on sait bien comment ça se passe en général en politique, dans les élections et dans ce type de parti politique qui se frotte aux élections tout particulièrement.
Patrick PL.
Oui, ce qu'on espère, on sait très bien qu'avoir un groupe au Parlement européen permet de rentrer dans certaines commissions, et on a pu voir que les pays, des pays comme l'Angleterre, qui est plus qu'hostile à l'Europe, est dans les commissions, c'est avoir des groupes de lobby, travaille au Parlement, ce qui n'est pas vraiment le cas chez les souverainistes chez nous, sans parler sincèrement que du Front National, mais les souverainistes en règle générale ont une tendance à être absents de l'Europe, alors que les Anglais ont compris qu'il fallait investir le Parlement, avoir des groupes de lobby et être à Bruxelles, parce que c'est le plus important pour arriver à faire passer certaines idées.
On l'a vu, je rebondis sur ce que vous dites, on l'a vu avec l'élection du nouveau président du Parlement européen, qui sera donc l'Allemand Hans Gerd Pöttering, qui est de la CSU, ou de la CDU, non, de CSU, je crois, en tout cas, qui est un chrétien démocrate allemand, et qui est qui est un des rares parlementaires à être au Parlement européen depuis les premiers mandats, donc c'est une figure du Parlement européen, c'est un homme qui n'a jamais connu de responsabilité partisane ou politique de premier plan dans son pays, et c'est un homme qui a été investi, si je puis dire, depuis un certain temps, par son parti, pour tenir et pour prendre le investir un périmètre significatif au Parlement européen. De la même manière que certains députés, même certains eurodéputés français, je pense à quelqu'un comme Jean-Louis Bourlange par exemple du côté de l'UDF, sont des semi-inconnus en France parce qu'ils ne se sont jamais investis sur la scène politicienne française. Et c'est vrai que quand on voit la course aux places sur les listes européennes, on voit des noms relativement inconnu. On pourrait citer aussi Joseph Daul, qui est l'ancien, qui est le nouveau patron du groupe PPE et qui est un UMP, qui a eu d'ailleurs une affaire judiciaire sur la figure à l'époque où il était ancien syndicaliste agricole, mais peu importe. Mais ils sont des gens relativement inconnus sur les scènes nationales, mais qui investissent avec les compétences dont ils disposent, avec l'envie d'y aller, qui investissent le champ européen. Vous parliez, Patrick, des commissions européennes, des commissions à l'intérieur du Parlement européen. On sait aussi qu'une bonne partie des enjeux se joue lors de la nomination des directeurs et des chefs de département à l'intérieur de l'Union européenne, de la Commission européenne cette fois-ci. Il est, c'est vrai, un petit peu regrettable que, a fortiori chez les souverainistes, et je dirais particulièrement au Front National qui est présent dans cet hémicycle depuis maintenant 1983, ou c'est ça,
si mes comptes 84.
Il est regrettable que, alors que certains sont présents depuis 1984, aucun eurodéputé Front National n'ait jamais pris le soin d'investir de manière importante, structurante, continue, cohérente
et donc
efficace le champ d'action qu'est le Parlement européen. Et puisque ce sont sur ces enjeux-là aussi qu'on peut nouer des alliances et qu'on peut nouer des contacts, et que en permanence, ce qui rendra difficile la constitution de groupes puissants, c'est que dès lors que ces partis dits nationalistes, et ils le sont, rentrent au Parlement européen avec des préoccupations essentiellement nationales, de facto, très vite, ils vont rencontrer en face d'eux un autre égoïsme national tout à fait légitime, et cela se comprend. C'est ce qui fait que, indépendamment des querelles de chefs, des groupes européens ont été rendus impossibles, notamment entre Jean-Marie Le Pen et Jörg Haider, il y a maintenant une dizaine d'années. C'est aussi le fait que, mine de rien, trois groupes souverainistes, ou deux groupes souverainistes et un groupe identitaire pour 87 députés, ça fait beaucoup. Et donc, ça veut dire qu'on a quand même du mal à se mettre autour de quelques valeurs. Et je pense que c'est dommage. Et ce groupe identité, tradition et souveraineté aurait tout intérêt à se structurer sur des positionnements, certes de valeurs familiales, souveraineté, comme ils l'ont fait, et on peut s'en féliciter, mais aussi sur un discours géostratégique, sur un discours géopolitique, sur un discours de vision, d'autant que ce discours-là, et là on va parler de la scène franco-française, est quand même très absent du discours franco-français d'un parti comme le Front National, par exemple.
Oui, pour rebondir sur ce que vous dites, il y a un excellent article dans Le Monde qui montre bien que, par exemple, un pays comme la Turquie est en train d'investir Bruxelles par l'économie, par son patronat, et que dans toutes les nouvelles commissions qui se sont mises en place, les Turcs sont présents. Alors, on aimerait bien un peu que les gens qui sont contre la Turquie, l'arrivée de la Turquie en Europe, aillent combattre tous ces gens-là à Bruxelles, à Strasbourg, qu'ils aillent dans les commissions, qu'ils aillent travailler, parce que les Turcs sont en train de rentrer petit à petit. Ils sont pas très très inquiets par ce qui est en train de mettre en place la France, en disant on ne veut pas de la Turquie, on ne veut pas de la Turquie. Les Turcs sont en train petit à petit de rentrer par la petite porte, mais peut-être la porte la plus puissante, qui est l'économie, et qui marche le mieux en ce moment en Europe.
Le facteur commun peut-être le plus évident pour éventuellement un rassemblement unitaire des différents partis nationaux de droite nationale sur le carrefour et sur la scène européenne, ce serait peut-être l'immigration d'origine extra-européenne, qui commence à avoir un impact énorme sur l'ensemble des pays. Ce pourrait être un peu le facteur commun, le plus petit dénominateur commun, mais un facteur ô combien important pour notre avenir, qui permettrait de rassembler les partis politiques de droite nationale attachés à la défense de l'identité européenne et à sa souveraineté.
Oui, et ça commence par le fait que nos eurodéputés français, y compris du Front National, pourraient se mettre à apprendre l'anglais, pour commencer. Alors on sait bien que la francophonie, c'est important, mais sauf que quand on veut discuter sur le bord d'une table avec n'importe quel eurodéputé, que ce soit à Strasbourg ou à Bruxelles, et on sent, on se battra notre coulpe du fait que ce soit l'anglais qui soit la langue vernaculaire, mais il n'empêche que c'est ça. Et donc je propose une souscription pour payer des cours de méthode assimile aux eurodéputés du Front National. Commençons par les plus jeunes. C'est pas forcément les plus cultivés, mais quand même.
Mais maintenant, ils ont un groupe parlementaire qui leur ouvre ce genre de crédit.
Donc, il faut le point de souscription.
Vous avez fait, Philippe, c'est un symbole. En Angleterre, quand vous commencez une carrière politique chez les Anglais, on commence par l'Europe. Quand on est jeune, on rentre en tant que député européen, on apprend le système, et ensuite on arrive sur la scène nationale anglaise. En France, c'est une tendance, c'est-à-dire qu'on a des gens comme Rocard, c'est-à-dire des gens qui sont à la retraite, qui ont terminé leur carrière politique, et on les envoie en Europe, on les envoie dormir au Parlement européen. C'est un peu la différence entre les deux pays. Voilà.
un commentaire, Grégoire Gambier, au-delà de cette bonne nouvelle donc, que constitue ce groupe sur sa capacité à avoir une vraie force de frappe sur les lieux réels du pouvoir européen.
Oui, enfin, pouvoir européen ou pouvoir national, hein, puisque la critique assez juste que vous faites du peu d'implication de l'élu dans son mandat, s'agissant des mouvements populistes, en règle générale, on peut l'appliquer à beaucoup d'autres mandats, puisqu'un mandat européen, vous l'avez dit, exige beaucoup de travail, de technicité pour être efficace, voire même d'humilité, puisque effectivement l'élu européen est en règle générale inconnu médiatiquement dans son propre pays, et il faut reconnaître que ce n'est pas le fort des mouvements dits de droite nationale, comme le dit Olivier Lebrun, mais qu'on pourrait qualifier plus facilement de populiste, qui cherche moins la crédibilité sur le long terme que la gloriole éphémère. Et cette espèce d'appétence antitechnique de l'élu populiste, on la retrouve dans le mandat européen, on la retrouve aussi dans les mandats nationaux, voire dans les mandats locaux. Donc c'est plus une révolution culturelle du combat politique à mener au XXIe siècle qu'il faut sans doute engager dans bon nombre de ces mouvements politiques.
Et peut-être pour clore le sujet, pourra-t-on d'ailleurs trouver une vertu dans la constitution de ce groupe? Parce que si on regarde les élus, alors les élus de polonais n'ont pas rejoint ITS, peut-être le feront-ils, on ne sait pas. Mais quand on regarde les jeunes élus polonais, notamment autour de Roman Gertich et de la Ligue des Familles Polonaises, quand on regarde les jeunes élus du Vlaams Belang, quand on regarde certains élus de, alors là aussi qui ne sont pas dans ITS, je pense aux certains élus de la Lega Nord. Et quand on regarde certains élus de ce qu'était le FPE, aujourd'hui seul Andreas Mölzer a rejoint ce groupe, c'est le seul parlementaire identitaire autrichien, je crois qu'il y a là pour le Front National des exemples, effectivement, d'élus qui, par leur vision de ce combat politique, on concilie la tradition du geste politique avec l'efficacité toute moderne d'une capacité à peser et à s'intégrer et à comprendre les lieux de pouvoir.
Souhaitons cette transformation, donc, et longue vie à identité, tradition,
on leur souhaite bonne chance. On leur souhaite bonne chance.
Oui, on est en début d'année en plus.
Alors, donc l'autre bonne nouvelle, c'est toujours en politique, c'est pas au Parlement européen, ça risque pas d'être demain matin, c'est des législatives et c'est en Serbie.
Oui, tout à fait. Ça ne vous a pas échappé. Il y a eu des élections législatives donc dimanche dernier en Serbie. Ça vous échappe rarement, tout à fait, qui ont été, soulignons-le quand même, marquées par une très forte participation, en tout cas un record dans ce pays, de l'ordre de 60%. Et ces élections ont vu la victoire des nationalistes du parti radical serbe. Soulignons aussi qu'il était donné, bien évidemment, au coude à coude par les sondeurs, définitivement incorrigible, avec le parti démocrate du président en place, pro-occidental, Boris Tadic.
Tadic,
si vous préférez, comme la Slibovic. Il a littéralement écrasé Philippe Christel. Je vois que vous êtes un connaisseur. Donc le parti radical serbe a écrasé le parti pro-occidental du président en remportant plus de 28% des suffrages contre moins de 23% donc au DS de Tadic. Cependant, un résultat électoral, et on en revient presque à notre propos précédent, aussi puissant et séduisant soit-il, ne garantit pas l'accès au pouvoir. Et en l'espèce, le parti démocrate devrait pouvoir compter sur les conservateurs du premier ministre sortant, qui avec près de 17% donc lui permettront vraisemblablement de constituer une majorité relative.
Plus le troisième parti libéral derrière, puisque cette coalition à trois fait 136 députés, je crois, là où la majorité absolue est de 126.
Tout à fait, c'est juste la majorité qu'il faut. C'était le pari et le vœu de la pseudo-communauté internationale, Union européenne en tête, et qui par la voix de son représentant pour la diplomatie, Javier Solana, a eu cette formule magnifique de mépris pour la souveraineté des peuples. Hein. Je cite parce qu'il y a quand même des grands moments. Donc j'ouvre les guillemets, j'espère vraiment que nous allons assister à la formation rapide d'un gouvernement aligné sur les forces pro-européennes. Fermez les guillemets. Donc vous avez bien entendu, aligné, le terme est là, s'agissant de l'ex-Yougoslavie, malgré tout c'est assez cocasse. Bon, le fait est que le calendrier politique est des plus serrés dans la région, donc on comprend que les instances européennes soient un peu tendues aussi, puisque le thermomètre politique que constituent ces élections législatives ne va pas dans le sens des solutions quelque peu émollientes préconisées par nos experts des organisations internationales, que ce soit l'Union européenne ou l'ONU. En effet, pour mémoire, c'est le 26 janvier prochain, donc vendredi, que doit être présenté un plan sur l'avenir du Kosovo par l'émissaire spécial de l'ONU dans cette province. Or, ce plan devrait, selon toute vraisemblance, envisager, en tout cas proposer parmi les solutions possibles, la sécession pure et simple de cette province serbe occupée depuis 1999 par l'OTAN et administrée donc par l'ONU. Alors, ça va pas être simple à faire admettre aux descendants des Tchétniks, dont on vient de voir à peu près ce qu'ils pesaient dans les urnes, d'autant que même les forces pro-occidentales en Serbie refusent cette partition et que le grand frère russe a menacé d'opposer son veto au Conseil de sécurité si le démantèlement de la Serbie devait être poursuivi. Donc c'est une grosse semaine pour la Serbie et pour les Balkans, puisqu'en toile de fond et pour finir, rappelons que le souhait de l'Union européenne est d'intégrer au plus vite la Serbie en son sein, en vue de contribuer officiellement en tout cas à la stabilisation de l'ensemble des Balkans. Officieusement, c'est l'occidentalisation du monde qui continue sans fin, mais bon, disons que sur l'aspect sécuritaire, voire identitaire, l'objectif est louable, mais s'il prend en compte aussi l'intérêt et la volonté des Serbes, et ne repose pas sur la poursuite de la politique d'humiliation à leur égard. Sinon,
d'humiliation et même d'épuration ethnique à rebours, si tant est que la première ait existé.
Tout à fait, d'épuration ethnique à rebours, mais d'humiliation, c'est plus les... Je fais toujours référence aux organisations internationales qui entendent régir, administrer une partie du territoire et régir l'avenir global de ce pays. Sinon, en tout cas, le groupe ITS de Bruno Gollnisch risque de voir ses moyens augmenter au Parlement européen lors de prochaines échéances électorales. Enfin, c'est un risque, somme toute, mesuré, mais on sera encore à côté de l'objectif politique qui est malgré tout de rendre à la Serbie la dignité de pays européen en bonne place aux côtés de la France.
Alors, on notera autour de cette l'étape ultime qui serait un vote du Conseil de sécurité de l'ONU par rapport aux propositions qui seront faites sur l'avenir du Kosovo. L'issue de ce vote ne va quand même n'est pas simple, parce que un certain nombre d'États savent très bien que valider confirmer la situation actuelle par la décision sur l'indépendance du Kosovo, c'est ouvrir la boîte de Pandore dont profiterait un certain nombre de régions sécessionnistes. Par exemple, il se dit à mot couvert que l'Espagne est très très réservée sur un tel vote pour des questions évidentes liées au Pays Basque espagnol, dont vous avez vu encore très récemment que les discussions pour la trêve ont totalement échoué du fait de l'incapacité ou de la volonté un peu maligne, je ne sais pas, d'ETA à maintenir un langage simple et unique. Je pense que, enfin, je suis pas spécialiste, mais je pense que c'est plus l'incapacité de ce groupe clandestin, donc avec des structures de commandes qui sont difficiles, de pouvoir réunir les pour et les contre au même endroit. Et donc, je pense que le patron de l'ETA ne dirige pas tout.
Si vous parlez de l'Espagne en ce moment, la sécession éventuelle de la Catalogne inquiète encore plus Madrid que celle du Pays Basque, avec le poids économique de la Catalogne, avec l'organisation que chacun s'accorde à reconnaître aux organisations indépendantistes nationales catalanes, c'est effectivement une éventualité qui soulève bien des inquiétudes à Madrid.
D'ores et déjà, donc effectivement, vous faites bien de le souligner, la Russie, on l'a vu elle aussi, joue sur du velours, puisque au nom de ses intérêts historiques, elle n'a évidemment pas envie de sacrifier la Serbie à l'autel sur l'autel des appétits occidentaux. Il n'empêche que si on devait passer outre son vote ou si elle devait s'y rallier, elle serait la première à en profiter, notamment pour mettre un terme une bonne fois pour toutes au conflit instrumentalisé contre elle en Géorgie avec ce que pourrait être facilement une sécession Ossète, Sud-Ossète ou Abkhaze. Mais on pourrait comme ça multiplier les exemples dans un certain nombre de régions pas totalement stabilisées des Balkans ou du Caucase, entre Transnistrie, Moldavie et autres régions. Crimée demain, que sais-je. Donc voilà, que dire aujourd'hui de cette décision? Quand est-ce que ça arrive au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU? C'est encore un petit peu flou. Il n'en reste pas moins, effectivement, que la Serbie est bien seule à se battre pour maintenir sa souveraineté sur cette région qui est, rappelons-le, mais je crois que les auditeurs de Radio Courtoisie le savent bien, qui est le cœur historique de sa civilisation et de la foi serbe. J'en profite, c'est pour faire une incidente sur, puisque comme nous sommes en pays serbe, nous sommes en pays orthodoxe, je voulais juste vous signaler, parce que je sais aussi que les auditeurs de Radio Courtoisie sont sensibles, que Benoît XVI, et ça c'est tout neuf, puisque ça date d'aujourd'hui, Benoît XVI a déclaré en sortant de son audience générale du Vatican d'aujourd'hui qu'il avait l'intention de poursuivre le rapprochement avec l'Église orthodoxe. Vous savez que de plus en plus les liens distendus sont en train de se renouer, et donc tant les dignitaires orthodoxes, sa sainteté Bartholomée Ier, mais également le métropolite Kirill, souhaitent a priori reprendre la main qui est tendue par le pape. Bien évidemment, on saura ce qui se passera au dernier moment, puisque tout se fera très discrètement. Vous avez vu également que Olivier Lebrun, vous qui suivez la défense, mais également les consciences, vous avez vu que le Vatican, la diplomatie pontificale, vous avez vu que Benoît XVI a retendu lui aussi une main vis-à-vis vers la Chine pour essayer de traiter une bonne fois pour toutes le cas de ce catholicisme d'État et de ce catholicisme romain.
Oui, alors c'est vrai que je me sens quelquefois un peu seul ici, non pas du côté de la défense mais du côté des consciences, mais je dirais que sur les deux sujets vous me semblez alors c'est tout à fait louable, mais très optimiste,
un brin naïf peut-être.
Très optimiste, Philippe, d'abord sur les liens avec l'orthodoxie du côté russe, il y a quand même des freins assez énormes, en particulier du côté du patriarcat orthodoxe à Moscou, et du côté chinois, effectivement, la main tendue du Vatican est une manière de revenir un peu dans le jeu, de reprendre l'initiative, mais vous n'ignorez pas qu'elle vient après une fin de non-recevoir extrêmement brutale adressée par Pékin au Vatican. Pékin qui, malgré les demandes répétées et pressantes de la diplomatie pontificale, avait ordonné une nouvelle fournée d'évêques patriotiques de cette église patriotique chinoise, reculant d'autant la perspective d'une réunification, d'un rassemblement d'une seule église catholique en Chine. Pour autant, effectivement, et dans la direction de la réconciliation avec les orthodoxes et dans la direction de la Chine, l'enjeu est énorme pour l'église catholique, d'un point de vue tout simplement religieux, théologique, d'un point de vue dogmatique du côté des orthodoxes, mais d'un point de vue d'un réservoir de force, puisqu'on parle de géopolitique. Aujourd'hui, demain, le catholicisme chinois pourrait grandir, pourrait être réorganisé, donc le Vatican ne laissera sûrement pas tomber ses efforts dans ce domaine-là.
Alors, merci Olivier Lebrun. Un auditeur nous questionne par message interposé sur les éventuelles tensions qu'il y aurait entre Russie et Allemagne à l'occasion de la visite de Madame Merkel à Sochi. Alors, je suis désolé, c'est la question d'un auditeur. Certes, j'avais prévu d'en parler, donc on va parler de la Russie et de l'énergie, puisque ça répond à une demande de l'auditorat. Et donc,
cachez votre joie, Philippe.
Et donc je rappelle,
la mise en scène est grossière.
Mais c'est incroyable. Mais on a une preuve. Oui. Les auditeurs voient là. Alors,
on peut se faire appeler par des amis.
Les auditeurs qui voient Télé Courtoisie ont cette preuve sous les yeux, et ils sont nombreux. Bien, pour faire très simple, d'abord, je voudrais rappeler que Angela Merkel, certes, vient d'une famille de pensée davantage atlantiste que ne l'était Gerhard Schröder, mais qu'elle est, en bonne chancelière allemande, obligée de tenir compte d'un certain nombre de réalités très pragmatiques, à commencer par le niveau des échanges entre les deux pays. Je rappelle que en 2006, les échanges ont encore progressé de 30% par rapport à 2005, pour atteindre 40 milliards de dollars, et que les investissements directs allemands en Russie ont encore sur l'année été multiplié par 1,5 en atteignant 2 milliards de dollars. Et donc voilà de bonnes raisons, s'il n'y avait qu'elle, pour que l'Allemagne ne se fâche pas avec la Russie. Les autres raisons, et si on replace le cadre de la visite si on replace la visite de Sochi dans ce cadre-là, c'est que Angela Merkel dirigeante, chef du gouvernement allemand, dirige donc l'Union européenne, puisque c'est l'Allemagne qui dirige l'Union européenne ce mois-ci. Rappelons également que l'Allemagne dirige également cette année le G8, et que donc Angela Merkel a plusieurs occasions et plusieurs casquettes pour aller voir Vladimir Poutine. Le sujet, vous le savez, c'est en permanence la question de la fiabilité du transport d'énergie, puisque après avoir eu à Noël 2005 la crise avec les Ukrainiens, eh bien maintenant ce sont les Biélorusses qui ont fait chanter, avec assez peu de succès d'ailleurs, Moscou à l'occasion de Noël 2006. Et donc perversement, on lit souvent ici ou là que la Russie est attaquée sur sa fiabilité comme fournisseur d'énergie. En l'espèce, ce que fait la Russie, rappelons-le, c'est que, un, elle reste fiable dans les quantités d'énergie qu'elle émet à direction des pays occidentaux, mais surtout, ce qu'elle fait, c'est qu'elle remplit les engagements qui lui sont demandés depuis longtemps, et qui est de mettre au prix du marché mondial avec tous les pays, quel qu'il soit consommateur direct d'hydrocarbures, qu'il soit pays transitaire, qu'il soit pays de la CEI, donc de l'ex-espace soviétique ou non, donc de mettre au prix de marché le gaz et le pétrole. La difficulté, c'est que tant l'Ukraine que la Biélorussie, qui ne s'y sont pas préparés pour des raisons qui lui sont propres, accusent le coup de manière drastique, puisque ces pays-là perdent le tarif préférentiel qui leur a été consenti par la Russie et qui leur permettait de financer à peu de frais leurs factures énergétiques. Aujourd'hui, avec l'Ukraine et avec la Biélorussie, ce sont les deux grands pays de transit qui sont maintenant rentrés dans le rang, voilà, on va dire ça. Et donc, la question risque bien de ne plus avoir à se poser. Le deuxième élément apporté par Vladimir Poutine, c'est que il a très clairement affirmé sa volonté de réduire la dépendance de son pays vis-à-vis des pays de transit. On l'a vu notamment avec la construction du gazoduc de la Baltique qui a fait hurler de colère les Baltes et les Polonais qui sont tout furieux de ne plus être transitaires pour le gaz russe, le gaz et le pétrole russe. Et c'est l'accélération de la construction des oléoducs en direction du littoral du Pacifique. J'en terminerai là. Également pour vous, sur le dossier algérien, pour vous donner une nouvelle qui n'est pas forcément une bonne nouvelle pour l'Europe.
C'est pas fini l'Algérie ? Si. Non.
Non, non, c'est le sujet.
Ah, pardon.
Non, l'Algérie, c'est immortel. Ça vit en nos cœurs. Alors, donc, pour vous dire... Beau comme du Jean-Pax, absolument.
Arrêtez vos provocations, Philippe.
C'est lui qui a commencé, c'est pas moi. Et donc, pour vous dire que l'étau énergétique russo-algérien se resserre autour de l'Europe, c'est le titre de Gazeta, puisque, et ça, c'est quand même pas forcément une bonne nouvelle pour l'Europe, et c'est pour ça, entre autres, je pense qu'Angela Merkel garde le sourire au nom des Européens et des Allemands avec Moscou, et qu'elle ne veut pas se fâcher, et elle a raison, avec la Russie, c'est qu'aujourd'hui, c'est Gazprom et l'Algérien Sonatrach qui signe des accords en commun pour développer une coopération sur la production, sur le transit et demain probablement sur les tarifs. Je rappellerai également qu'ils ont des projets de développement d'industrie nucléaire, civile, rassurez-vous, civile. Mais donc ce que nous avions évoqué avec Xavier Van Liert il y a une ou deux émissions sur le péril que pourrait représenter le cartel russo-algérien sur la livraison d'énergie européenne, ce péril-là n'est pas tout à fait écarté. Et donc il convient de gérer ça intelligemment quand on est européen. Et c'est pour ça qu'Angela Merkel est venue et repartie ravie de son séjour à Sotchi. Vous la coupez, ça, hein?
Ouais. Ah oui, non, mais ça, c'est une belle chute. On parle un peu de culture maintenant ?
Non, on va pas parler de culture tout de suite. On va en faire une transition peut-être entre politique et culture, entre un homme qui a été à la fois homme politique, homme de pouvoir et homme de grande culture et qui nous a quittés aujourd'hui. Je parle pas de l'abbé Pierre. Hein.
Non, lui, c'était pas aujourd'hui. Mais aujourd'hui, oui, Jean-François Doniaux est mort. Vous le savez peut-être, vous, Philippe Christel, certainement. Donc, bon, on va pas revenir sur la carrière de Jean-François Doniaux, hein, puisqu'il y aurait beaucoup de choses à en dire, et pas toutes forcément excessivement flatteuses. Mais globalement, c'était quand même quelqu'un de bien, un Français debout. Et je voudrais simplement deux trois petites remarques pour vous convaincre, Philippe Christel. Tout d'abord, c'était un acteur engagé en politique. Hein. Il a eu moult mandats locaux et beaucoup exercé de nombreuses responsabilités ministérielles. Mais il aura malgré tout cette remarque hautement aristocratique que je voudrais vous livrer, puisqu'il écrira « Le pouvoir n'a pas de siège, seulement des couloirs. La politique, je n'aurais pas dû m'en mêler. Les luttes de partis, les appareils, les phénomènes de cour, les premiers cercles, les systèmes d'écurie, ce n'est pas pour moi. » Voilà, donc c'est à la fois cocasse pour quelqu'un qui en aura fait pendant presque 30 ans, mais c'est quand même assez lucide sur la façon, en tout cas, dont la politique aujourd'hui en France et en Europe, puisqu'on l'a vu s'agissant du Parlement européen, se mène et donc n'est pas forcément le meilleur moyen de s'exprimer ou d'exprimer les caractères des hommes. La deuxième petit point de vue s'agissant de Jean-François Doniaux, c'est quand même qu'il a écrit un certain nombre d'ouvrages, de nombreux même, dont l'Europe interdite, c'est un de ses premiers essais en 1977, qui revendiquait, vous savez que Jean-François Doniaux avait été l'un des rédacteurs du traité de Rome, et je crois que c'est le Figaro d'aujourd'hui qui rappelait que c'était le seul ou l'un des rares traités internationaux où le terme d'idéal paraissait. Donc ça aussi, ça participe de l'aspect sympathique du personnage. Donc il a écrit en 1977 un essai, L'Europe interdite, où il exprime un peu sa vision d'une Europe différente, qui allant de Brest à Vladivostok. Donc là aussi, ça devrait tout à fait vous plaire. Enfin, je ne sais plus si c'est Vladivostok ou Brest-Litovsk, ce qui n'est pas tout à fait pareil,
parce que là, on en revient plus à
l'Europe de l'Atlantique à l'Oural. Mais ce n'est pas grave, c'était quand même une vision déjà grande européenne, en 1977, et cela devrait vous le rendre aussi sympathique. Rappelons aussi parmi les livres, les nombreux livres qu'il a commis, Un héros très discret, donc qui était quand même une façon assez fine de montrer les ambiguïtés de la France de la libération. Film qui a été très bien adapté d'ailleurs au cinéma en 96 par Jacques Audiard, avec même un Mathieu Kassovitz pour une fois inspiré dans le rôle titre. Et enfin, parmi les trois livres que j'ai retenu, le dictionnaire amoureux de la mer, puisque vous savez que c'était surtout un grand marin.
Un grand alpiniste. C'était un aventurier.
Tout à fait. Surtout un grand marin.
Et terre et mer se battent.
Oui,
on connaît chez les marins ce besoin de faire des phrases.
En plus, je rejoins Grégoire Gambier. Jean-François Doniaux était peut-être l'un des seuls à comprendre que la France était un pays de marins et que sur le plan géopolitique, ses côtes étaient peut-être plus importantes que sa terre et ses paysans. Et il rejoignait énormément des gens comme Louis Tabarly,
qu'il avait remplacé à l'Académie de Marine, et il remplace Louis XVI en effet. Voilà. Donc dictionnaire amoureux de la mer, dont je recommande aux auditeurs tout à fait la lecture, d'autant que cette superbe collection chez Plon a également publié un dictionnaire amoureux de la chasse de Dominique Vénère qui était très bien.
Donc,
dernière chose, et ça va vous plaire aussi, Philippe.
Et là, vous êtes dans la culture, là, non? Toujours Jean-François Doniaux.
Toujours Jean-François Doniaux. L'une des premières personnalités politiques à réagir a été Michel Alliot-Marie. Vous savez, l'éphémère est malheureusement peu crédible en part contre le sarkozysme triomphant.
Oui.
Mais donc, Michel Alliot-Marie, je la cite parce que c'est pas mal du tout. Elle indique dans son communiqué un peu officiel, il nous laisse l'exemple de ses 7 vies, donc l'un de ses, des titres de ses ouvrages les plus connus. Donc, ses 7 vies faites de voile et de haubans, d'amitié et de bon vin, de loyauté et d'espérance, mais surtout de courage. Homme de conviction, il revendiquait cet esprit de contradiction constructive qui était sa marque, car il savait que comme en mer, on est libre, sauf de faire n'importe quoi. Donc je trouve que ça résume assez bien l'état d'esprit très droitier, très radio-courtoisie, que l'on peut retrouver parfois, y compris chez des hommes comme Jean-François Doniaux. Donc je le salue tout à fait, et sans aucune réserve cet après-midi.
Nous non plus.
Et voilà, et j'espère et vous saluer, associer à cette
Pour hommage. Le saluer avec vous, nous allons passer la petite musique qui va nous engager sur notre troisième demi-heure culturelle. Alors,
troisième demi-heure dans ces chroniques de la vieille Europe sur Radio Courtoisie, en deuxième partie du Libre Journal de Serge de Bekenge. La main et la parole plutôt sont chez vous, mon cher Patrick.
On va déjà passer par deux petits messages. Un message qu'on nous demande: pourquoi avez-vous choisi comme générique de fin d'émission la musique originale de La Vie de Brian de Monty Python, film anti-chrétien au possible? Est-ce de la provocation? Pas du tout, c'est pas de la provocation, simplement on trouve ce film sympathique, on trouve que la musique fait partie de la musique européenne, l'humour anglais nous a toujours plu, peut-être que l'humour anglais nous plaît chez les Anglais, mais voilà, il n'y a aucune provocation de notre part.
Alors moi je tiens à dire, je suis solidaire du choix, mais j'ai même pas vu le film, mais je trouve que la musique est très bien.
Voilà.
Mais je suis solidaire de votre choix.
Et autrement, un autre message qui nous dit: c'est agaçant que vos intervenants disent global au lieu de dire mondial, donc on va faire très attention.
On se sent visé, on promet de faire un effort.
Voilà, c'était les petits messages.
Bon, résolution 2007, Olivier.
Je suis globalement d'accord avec ce message.
D'accord. En ce début d'année, je vous avoue que j'ai très peu lu, à part la magnifique biographie de Mao, de Yung Chang et de John Hallyday aux éditions Gallimard. 660 pages, et oui, ça prend du temps, mais comme tout le monde en a...
C'est sorti il y a un moment.
Hein. Comme tout le monde en a parlé, oui, je suis un peu lent en lecture.
Préparez-vous, parce qu'il y a celle de Castro qui va bientôt sortir.
Voilà, alors sincèrement...
Le recueil de ses discours.
Je vous avoue que mon commentaire aura peu d'intérêt sur ce livre.
Bon.
Même si c'est un livre époustouflant. Alors juste un mot, j'ai décidé de complimenter les traducteurs, car pour une fois, on a un style qui est limpide, et souvent sur les biographies étrangère, on a souvent un français qui est plus que limite, et là cette fois-ci il y a un vrai français, et
il y a même des biographies françaises en français où c'est très très limite.
Ouais, vous savez, on n'est pas très très bon en France sur les biographies, des biographies un peu sérieuses, quoi.
Quand il s'agit d'aborder globalement la vie de quelqu'un, quoi.
Oui, et surtout compliqué. Sur le communisme, on n'est pas, il y a de moins en moins de personnes, enfin bon. Donc je vais commencer à vous parler par la musique. Vous savez que depuis le mois dernier, vous n'étiez pas là, Philippe Christel, j'ai décidé de me transformer en bobo et vous faire découvrir la musique du monde. Je trouve que c'est très à la mode.
Pas être là, oui.
Voilà. Alors la dernière fois, j'avais parlé à nos auditeurs d'un groupe suédois, Germana.
Ah, ça va. C'est un monde.
Et cette fois-ci, on va aller vers le sud, chez les Flamands.
Ça va.
C'est un sud qui reste décent.
C'est un sud qui reste décent. Donc c'est Laïs, un trio de trois jeunes filles belges. Vous connaissez
Flamandes. Elles ne sont pas belges.
Trois jeunes filles.
Français.
Oui. On va rester sur un plan de
Laïs. C'est super.
Elles sont belges, c'est vrai. Elles sont flamandes.
On aurait dû en passer à l'antenne.
Dont leur beauté
flamande et de citoyenneté belge.
Dont leur beauté et leur voix ne laissent personne indifférent. Et je vois que autour de cette table, c'est exactement la même chose. Faut savoir que leur premier album, qui a rencontré un gros succès, s'est vendu à plus de 50 000 exemplaires simplement en Flandre. Ce qui est quand même énorme. On retrouve un répertoire archaïque des chants traditionnels flamands, et franchement j'ai réellement découvert cette langue. C'est vrai que le flamand on l'entend très peu, hein,
oui.
Surtout en France.
On le comprend très peu.
On le comprend très peu, mais
on l'entend très peu.
Quand on l'entend chanter, j'avoue que c'est assez magnifique. Elles ont un goût particulier pour l'aspect légendaire ou symbolique de ces chants. Mais Laïs ne se cantonne pas exclusivement à ce répertoire. Le groupe peut interpréter en français du Brel, en lui apportant une fraîcheur et une lumière nouvelle, ou des merveilleuses polyphonies de la Renaissance française. On trouve aussi
Ils font beaucoup d'a cappella, je crois.
Oui, exact. On trouve aussi dans leur premier album une chanson de Sinéad O'Connor, la chanteuse irlandaise. Laïs s'inspire également des chants traditionnels de nombreux pays d'Europe, breton, occitan, Italie, France, Suède. Elles ont fait la première partie du groupe Imouvrini et de Sting. Et cela fait depuis 10 ans qu'à travers leur album et leur voix, ces trois jeunes filles ont déjà fait l'Europe. Le trio a une très belle formule pour définir leur musique. Elles se présentent comme le chaînon manquant entre le Moyen-Âge et le 21e siècle. Donc voici un chaînon à ne pas manquer. Vous devriez trouver leurs albums chez votre disquaire. Contrairement au groupe suédois Germana, qui est beaucoup plus difficile, Laïs, on le trouve assez facilement.
Est-ce que vous pouvez épeler Laïs?
Alors
pour que nos auditeurs...
I-S, ce qui signifie voix, et qui est aussi le nom d'un genre de chanson érotique au Moyen-Âge.
Oui.
J'ai trouvé ça sur ma belle encyclopédie.
C'est les laits. Des laits, voilà. Tout simplement.
Et donc, elles ont aussi un site internet, si vous voulez les voir, c'est www.laïs.be. Et on est obligé de citer la Belgique.
Oh.
Ce qui vous permettra de visualiser leur charme et d'écouter des extraits de leur musique. Voilà la partie musicale. Exposition.
Alors, comme je savais que vous n'aviez pas cette référence, moi j'ai beaucoup travaillé depuis la dernière émission et je vous ai trouvé la référence.
Vous nous avez écouté quand même.
Voilà, bien sûr, je vous ai trouvé la référence que vous cherchiez. Donc Garmana, le mystère des chants vikings, c'est un disque chez Sergent Major Company.
Ouais, mais je peux vous assurer
Garmana,
qu'il est
le mystère des
chants
vikings.
Il est très difficile à trouver dans les fameux magasins FNAC.
Sur Internet, ça devrait
Ou alors sur Internet. Je vais vous parler de l'exposition Hergé, comme le mois dernier. Vous savez que cette année 2007 est l'année d'Hergé, et comme je l'avais prévu le mois dernier, on va taper sur Hergé toute l'année. Alors par exemple, grâce à Grégoire Gambier, j'ai appris que le Canard Enchaîné s'étonnait qu'on ne parle pas dans l'exposition Hergé à Beaubourg de Hergé pendant la guerre.
Enfin, non pas qu'on parle pas, qu'on ne le condamne pas.
On ne le condamne pas, on n'en parle même pas.
Oui.
Qui est une exposition magnifique et gratuite, hein, je le répète. Effectivement, c'est une très bonne information du Canard. Dans cette expo, on ne montre que des dessins, on ne parle pas. Et Hergé, pendant la guerre, n'a dessiné que du Tintin, qui était publié dans le journal belge Le Soir, qui effectivement, le journal était engagé dans la collaboration. Mais Hergé, lui, dessinait les 7 boules de cristal. Donc la seule solution, c'est de décrypter dans les 7 boules de cristal un message peut-être pro-allemand ou antisémite. Ça, c'est à vous de voir. Et c'est pas fini. Il y a quelques jours, lors d'une émission radio du service public, j'ai pu entendre une théorie fumeuse sur l'origine des fameuses insultes du capitaine Haddock. Alors la création de ces insultes serait un hommage au pamphlet antisémite de Céline. Alors, n'ayant pas chez moi ces fameux pamphlets, que je crois qu'ils sont interdits par sa veuve, je suis incapable de savoir si Hergé avait cette idée derrière la tête. Donc voilà, nous sommes que fin janvier, je pense que la polémique n'est pas prête de se terminer, mais je laisserai le dernier mot à Hergé qui ne manquait pas d'humour sur le sujet. À la question quelle était sa principale occupation en dehors du dessin, Hergé répondait 39-45. Ça, c'est drôle quand même.
Hein? Alors, Patrick, on a un message. Que signifie Bobo?
Bobo, le bourgeois bohème.
Voilà, c'est le voilà, bourgeois, c'est l'abréviation pour bourgeois bohème.
C'est bourgeois bohème.
La dernière incarnation de l'homme de gauche qui concilie le bien-être économique et le progressisme idéologique avec voilà, avec un naturel et un esprit de contradiction confondant.
C'est une très belle définition.
Et la mauvaise conscience post-chrétienne.
Oui, surtout ça.
Voilà, on a aussi deux autres messages. Hein. Un sur Poutine, on a traité le sujet, donc je ne vais pas y revenir. Et un autre, c'est un auditeur qui a rien compris à ce qu'on a dit tout à l'heure sur l'extrême droite au Parlement européen, mais c'est pas grave.
Bon, on va parler cinéma, ça va peut-être te changer. Que va-t-il se passer le 21 mars, mon cher Philippe ?
Ah, le 21 mars, eh bien, François Bayrou est président de la République.
Non ? Peut-être, mais en attendant, c'est l'arrivée de 300. 300, c'est d'après la bande dessinée de Frank Miller. J'en avais déjà parlé il y a un an. Et enfin, cette bande dessinée culte qui était divisée en 4 chapitres. Vous savez que c'est cette fameuse bataille des Spartes contre
Spartiates aux Thermopyles.
De Thermopyles. Cette bande dessinée culte qui était divisée en 4 chapitres, c'est déjà tout un programme. Honneur, devoir, gloire et combat. Hein, que ça, c'est beau, devient une réalité au cinéma. Alors, soyons clairs, l'œuvre de Frank Miller n'est pas une œuvre historique, donc le film fidèle à la BD ne l'est pas non plus, mais quand le réalisateur Zack Snyder montre son film à Victor Davis Hanson, un historien militaire de renom, qui fait autorité sur les guerres médiques, l'historien dira « L'esprit de Sparte habite bien le film ».
Vous pouvez nous redonner le nom du film, s'il vous plaît ?
300, comme simplement, chiffre. Comme le chiffre. Alors, soyons honnêtes, n'ayons pas encore vu, peut-être que ce film est très mauvais. Donc, je vous ai trouvé une critique qui ne vient pas de Positif ou des Cahiers du cinéma, mais d'un journal spécialiste du cinéma fantastique. Alors, je vais être obligé de mettre tout à l'heure une pièce parce que le titre de ce magazine s'appelle Mad Movies. Donc, ça fait deux mots en anglais.
Ouais, alors, il est surtout spécialiste des films de série B.
Mais oui, bon, série B, fantastique, oui. Horreur. Et alors, sous la plume de Cédric Delelay, que je ne connais pas, voici une critique qui me dit que ce film ne doit pas être si mauvais. Alors, je vais vous le citer, comme ça au moins, c'est pas moi qui donne mon avis. On entend déjà la vertueuse presse Bobo, ça c'est marrant, hein, je suis pas le seul à la citer, s'élever contre le point de vue du métrage en le taxant de facho,
entre parenthèses Sparte, édomophobe, entre parenthèses les Perses ne sont pas très virils, et Léonidas ne se gêne pas pour le faire remarquer. Mais qu'importe, oui, 300 est un film d'hommes, pas des dieux, juste des hommes, qui luttèrent jusqu'à leur dernier souffle et répandirent leur sang sur la terre de leurs ancêtres pour sauver leur famille et la liberté de leur peuple, préférant mourir debout l'épée au poing plutôt que vivre une existence à genoux. Et au vu des premières images, il se pourrait bien que Conan le barbare ait enfin trouvé son digne successeur, et que Léonidas et ses Spartiates et qu'ils soient brandissent leurs glaives pour saluer l'hommage rendu à leur bravoure et sourient, fiers que leur mémoire alimente les légendes et puisse donner naissance à un film ayant toutes les chances de révolutionner le cinéma épique par sa fureur martiale.
C'est quand même beau, hein, d'un journal de série B. Moi, je trouve ça excellent.
On dirait un article de Terre et Peuple.
C'est incroyable. Hein. Oui.
Donc, je vous le dis sincèrement, le 21 mars, il faut aller se précipiter sur ce film de Zack Snyder, 300, voilà, pour le cinéma.
Donc, merci Patrick.
Ah ben je vois que vous avez un objet de culture.
J'ai apporté un objet de culture. Les gars, faut pas qu'on vous embête là. Hein. Vous êtes à la radio, sur Radio Courtoisie dans les chroniques de la vieille Europe. Donc je vous propose le tome 5, mais faut acheter les 4 précédents, d'une bande dessinée qui s'appelle, alors moi aussi je vais mettre 5 sous dans le cochonnet, Insiders.
C'est pas
dire
très français,
ceux
ça.
Qui sont dedans. Ah non, bah c'est pour ça que je sors tout de suite mon taureau pour pouvoir le mettre dans le cochonnet. C'est une bande dessinée qui est aux éditions Dargo, donc Insiders, Insiders, et qui est assez curieusement, qui est très actuelle, hein, puisque c'est une histoire comme d'habitude d'aventure et de services secrets très très contemporaine. Ça aurait pu se passer l'année dernière. Et alors, curieusement, l'esprit est tout à fait dans la droite lignée de ce qu'on raconte. C'est-à-dire que, curieusement, ce ne sont pas forcément les Américains qui sont soit les très gentils, soit les très méchants. Ce ne sont pas les autres, donc, par définition, qui sont les méchants. C'est beaucoup plus complexe que ça, et ça démontre un certain nombre de mécanismes où, quand même, les grands méchants loups sont les businessmen et politiciens et financiers de haut vol qui sont les rouages apparents d'une espèce de mondialisme aux activités souterraines malgré une façade légale, et avec un héros qui est en l'espèce une héroïne qui a belle mine et qui promène son talent et ses coups de revolver un petit peu partout. Et donc, je vous rappelle, les 5 premiers titres sont Guérilla Tchétchène pour le premier, Opération Offshore pour le second, Missile pour Islamabad le troisième, Le Piège Afghan avec notamment une scène émouvante où on voit les forces spéciales françaises délivrer l'otage dans les grottes de Tora Bora. Et curieusement, c'est une opération menée par les forces françaises qui réussit. C'est fantastique.
Assez de sarcasme.
Et puis,
il y a un roman de Volkov.
Ce cinquième opus s'appelle OPA sur le Kremlin, mais je l'aurais acheté de toute façon. Hein. Et donc, Insiders aux éditions Dargo, que je recommande vivement.
Patrick. Ouais, j'ai un autre livre, il va être un peu plus cher que votre BD.
10 euros moins.
Là on atteint quand même des prix énormes, c'est 174 euros.
Ah oui, oui.
Donc c'est Le Bush de Larry Silver, et c'est un des plus beaux livres qu'on puisse trouver, si je retrouve ma fiche.
J'ai envie de pour vous dire, un message de l'éditrice qui nous dit, ce n'est pas la veuve de Céline qui interdit les pamphlets, c'est la justice.
Oui, mais malheureusement je ne crois pas, enfin je ne voudrais pas, mais je crois sincèrement que il n'y a pas eu de la justice n'est pas intervenue sur ces écrits et que c'est simplement la veuve qui a décidé que certains pamphlets, mais de toute façon le sujet n'est pas là, mais enfin je veux bien faire acte si un autre éditeur un autre auditeur nous confirme ce que nous dit cette
personne. Et un deuxième message d'un auditeur cette fois-ci sur la musique: cette musique est sublime et me fait penser au monde du silence. Et
vous parlez de la musique de
j'imagine que ça fait référence au débat qu'on a eu sur
le générique de fin de la vie de Brian,
et sur le texte: continuez, vous nous réjouissez, vous êtes très bien.
On va continuer.
Merci monsieur.
Donc je vais continuer avec ce fameux livre de
Bosch, de Larry Silver. Alors, c'est un livre magnifique qui vient de sortir sur Jérôme Bosch.
Hieronymus Bosch ?
Jérôme Bosch, aux éditions Citadelle et Masno. Alors, c'est vrai qu'il est un peu cher, il fait 174 euros, mais j'avoue que le travail de l'auteur, Larry Silver, est impressionnant, car ce n'est pas une suite de tableaux comme on voit dans les catalogues d'exposition avec un texte d'introduction sans intérêt. Larry Silver est un vrai spécialiste des peintres et des dessinateurs flamands, et son travail est gigantesque. Il a recherché les influences du peintre, il a fait une analyse de chaque tableau, car ce qui est fascinant avec Jérôme Bosch, c'est que c'est chaque petite scène est un véritable tableau à lui-même, et on peut regarder des heures une de ses œuvres pour admirer un univers singulier, déroutant, gorgé de visages marquants, partagé entre des hommes, des animaux, des créatures indéfinissables. Il faut savoir que Jérôme Bosch ne peignait pas sur toile mais que sur le bois, ce qui pose problème parce que parfois il peignait aussi à l'envers de ses tableaux, ce qui nous a permis de voir des vrais petits chefs-d'œuvre derrière d'autres chefs-d'œuvre. Il restera une énigme dans l'histoire de la peinture qu'il va influencer. Il va influencer surtout toute la peinture européenne, jusqu'au surréaliste dont Dali lui rendra hommage dans une série de lithographies qui est magnifique et qu'il créa dans les années 60. Alors pour les amateurs, c'est un livre indispensable et un livre d'art qui se lit. Pour une fois, on n'est pas à simplement regarder des images, et il ne restera pas sur votre table de salon pour épater vos amis. Donc c'est Bosch de Larry Silver aux éditions Citadelle Masno. Voilà. Vous voulez une autre petite brève ?
Olivier Lebrun, vous avez quelque chose à dire ?
Écoutez, on recommande souvent dans cette partie de l'émission à nos auditeurs et nos auditeurs et
nombreux,
et putatifs,
nos auditeurs nombreux.
Et putatifs lecteurs, de nouvelles bandes dessinées, de nouveaux livres, de nouveaux CD, de la musique, des nouvelles expositions. Alors peut-être qu'on peut reparler d'un livre à relire, non pas à lire ou à découvrir, mais à relire. Non, pas Barrès. Pas Maurras.
Peggy ?
Non. Non, Morand. Ah oui, vous me direz.
Ah oui, c'est plus léger.
Morand. Pourquoi ? Parce que c'est vrai, peut-être les
alors
les.
Alors lequel ? Lequel ?
Le Lewis et Irène qui ah peut-être, mais c'est un Morand qui est extraordinaire parce que c'est un exemple de maîtrise de la langue, de tension dans l'écriture, de rythme dans l'enchaînement des tableaux, dans l'enchaînement de l'histoire, qui est extraordinaire. Cette espèce d'écriture serrée, retenue, nerveuse. Morand, elle est là dans sa plus belle manifestation. Donc Lewis et Irène, c'est vrai, véritablement magnifique, et je crois qu'il faut relire ces classiques. Il faut absolument revenir aux sources de cette magnifique langue française, pas seulement à travers des nouveaux livres, nouvelles BD, mais également à travers les maîtres, parce que notre jeunesse, la jeunesse peut-être qui écoute cette émission, elle lit aussi les maîtres de la langue française, au premier rang desquels Paul Morand, évidemment.
Figure. Olivier Lebrun, merci. Hein, juste pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté entre nous, moi quand je recommande une BD, c'est pas pour la langue française, hein, c'est parce que c'est super sympa et c'est marrant.
Et qu'il y a une belle fille qui est dessinée.
Voilà,
aussi,
essentiellement ça. Mais je suis sensible à votre contribution au débat.
J'avais bien compris.
Je vous parlais juste rapidement musique, parce que je crois qu'il n'y a plus beaucoup de place, puisque ça doit se terminer le 29 janvier, donc autant dire que c'est quasiment rappé. Mais je suis allé voir au Théâtre du Châtelet la Pietra del Paragon, del Paragon, oui c'est ça, qui est l'opéra de jeunesse de Rossini, et qui est dans une mise en scène, Patrick, vous en avez certainement dû en entendre parler, une mise en scène plutôt audacieuse et plutôt astucieuse et saluée par la critique. Et donc vraiment, moi qui suis pas fan d'opéra et qui suis pas très arts évolués, je suis un peu primitif, mais là pour une fois, j'ai trouvé que c'était vraiment fantastique, et donc j'engage les auditeurs qui le peuvent à aller au Théâtre du Châtelet. Je crois que la dernière représentation doit être le 29 janvier, donc courez-y, monsieur, dame.
Oui, et Patrick, même s'il n'y a pas de place, le Châtelet, vous vous mettez devant, il y a toujours des gens qui revendent leur place, parce que c'est souvent les abonnés. Donc voilà un petit truc pour avoir une place au Châtelet. On va parler architecture. C'est l'agrandissement. Alors cette fois-ci, c'est pas purement culturel. C'est l'agrandissement du théâtre Mariinsky à Saint-Pétersbourg qui avait été confié à l'architecte français Dominique Perrault, qui vient de lui être retiré.
Oui, ça c'est très drôle.
Alors le concours international pour l'agrandissement du théâtre mondial connu avait eu lieu en 2015. 2003, le projet du français Dominique Perrault avait créé un cocon en verre et en aluminium dans le style high-tech, il va falloir que je remette encore des sous, avait été sélectionné parmi les 11 projets candidats en compétition. Puis un contrat sur le suivi technique du projet à toutes les étapes avait été conclu entre Dominique Perrault et les Russes, qui ont une tendance, je veux dire, à quand même être des gens sérieux. Les honoraires devaient se chiffrer en environ 73 millions de roubles, et le budget fédéral a payé à Monsieur Perrault au total presque 198 millions de roubles, ce qui est à peu près entre 6 millions d'euros. Seulement voilà, et oui, il y a eu un hic. À la fin de l'année 2005, des experts avaient découvert que le projet d'agrandissement ne prévoyait pas, alors tenez-vous bien, pas d'installation de canalisation, de système de ventilation, de climatisation, ni d'alimentation en électricité, ce qui était un peu embêtant pour un bâtiment. Les experts estiment entre autres que les projets de coupoles et de carcasses de béton élaborés sur commande par différents ateliers sont incompatibles. Le projet ne précise pas en outre que ce que deviendra la coupole en cas de chute de neige abondante, ce qu'avait pas prévu Monsieur Perrault. Eh ben oui, monsieur, nous ne sommes pas en France, car rappelez-vous, Dominique Perrault est l'architecte de la grande bibliothèque François Mitterrand. En France, on a vu le nombre de problèmes qu'a eu la grande bibliothèque, les marches glissantes en bois exotique gris et moche. Bon, vous pouvez toujours les voir, ces fameuses marches. Le problème des livres dans les tours et la non-fonctionnalité du bâtiment. Mais en France, c'était le prince qui décide. En Russie, on nomme des experts pour voir le sérieux du projet. Effectivement, ben, ça donne pas le même résultat. Donc, monsieur Dominique Perrault, même s'il est français, s'est fait virer comme un malpropre pour un projet plus que bâclé.
Voilà. Merci Patrick pour ces différents éléments de notre chronique culturelle. Voilà, nous allons terminer cette émission.
C'est dommage, c'était bien.
C'était bien. Nos auditeurs nous le diront. Nous allons donc effectivement nous séparer pour ces chroniques de la vieille Europe sur Radio Courtoisie, toujours au sein du Libre Journal de Serge de Bekech, lequel nous fait l'amitié de nous demander de revenir le 14 février. Donc, cette fois-ci, je donne rendez-vous à nos auditeurs. Nous nous reverrons dans ce studio le 14 février. Je crois que le 14 février, c'est pas la Saint-Valentin, non?
Oui, ça doit être ça. Ouais. Vous êtes bien informé.
Non, mais faut. Moi, j'ai décidé que je ferai des efforts en 2007 entre la soirée à l'opéra et la Saint-Valentin. Je mets tous les atouts de mon côté.
Enfin, en début d'année. Pour être tranquille après.
Il faut tout donner dès le début. Après, quand c'est bien, quand le feu d'artifice est total, on peut se laisser déchoir tranquillement. Si personne d'autre n'a de commentaires tout aussi pertinents sur ces éléments-là, donc rendez-vous, messieurs et vous, chers auditeurs, le 14 février. Merci, Patrick PL, pour tous les éléments de cette chronique culturelle.
Merci
Olivier Lebrun pour la somme de science que vous nous avez délivrée au sujet de la balistique chinoise.
Et du style de Paul Morand.
Merci Grégoire Gambier pour ses analyses toujours performantes de ce qui se passe au Parlement européen en Serbie et ailleurs. Bonne soirée messieurs, bonne soirée aux auditeurs et au 14 février. Au revoir. Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle. And this'll help things turn out for the best. And always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps, just purse your lips and whistle, that's the thing. Ain't always look on the bright side of life. Always look on the bright side of life. For life is quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your scene, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance anyhow. So always look on the bright side of death. Just before you draw your terminal breath,
Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national. À Paris sur 95,6 MHz, à Caen sur 100,6, à Chartres sur 104,5, à Cherbourg sur 87,8, au Havre sur 101,1, au Mans sur 98,8. Pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS et pour le monde entier sur notre site internet radiocourtoisie.com. Vous venez d'entendre le libre journal de Serge de Bekech avec l'assistance de Victoria, diffusé en direct mercredi 24 janvier 2007 de 18h à 21h, en différé jeudi 25 dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce libre journal a été réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Envoyez votre chèque.